De retour au tabernacle ce matin pour annoncer à tous une bonne nouvelle et dire combien le Seigneur Dieu a été bon pour nous. Dimanche dernier, lorsque j'ai raconté la vision, et la plupart d'entre vous étaient là, au sujet du serpent qui était tué au milieu de son corps. Cette vision s'est accomplie mot à mot, moins de 24 heures après qu'elle était racontée ici sur l'estrade. C'est glorieux de voir comment le Seigneur a agi. Je n'ai jamais vu une seule d'entre elles faillir dans les de toute ma vie, et j'ai 52 ans. Ça s'est accompli tout à fait mot à mot, et je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et maintenant, il y a tout ce dont je parlais, ce que je disais au sujet de cette accusation, ou non pas une accusation, ça venait d'hommes au cœur honnête et qui ont la crainte de Dieu, des hommes pour qui mon ministère était devenu un peu trop surnaturel, et ils se sont mis à penser que j'étais le Seigneur Jésus, et cela à cause une petite doctrine est née autour de cela, mais tout cela s'est arrêté d'un coup. Je remercie le Seigneur pour cela. Et aussitôt que moi-même, je suis passé à autre chose, que j'ai remis cela entre les mains du Seigneur et que j'ai simplement laissé le Seigneur s'en occuper, cela s'est réglé immédiatement. Dans les 24 heures qui ont suivi, tout était terminé. J'en suis encore un peu inquiet et peiné, mais je m'en remettrai au bout de quelque temps. En fait, ça m'a en quelque sorte bouleversé, mais je vais très bien. Nous avons eu de grandes victoires cette semaine. Je veux raconter quelque chose. Bon, si j'avais écouté ce que le Seigneur m'avait dit, cela ne serait jamais arrivé. Il m'en a parlé il y a 4 ans. Ma femme qui est ici, elle est là quelque part dans l'auditoire en ce moment. Et mon fils qui est assis, était ici sur l'estrade il y a quelques instants. Et beaucoup d'autres qui m'ont entendu dire à maintes reprises, « C'est la dernière fois que j'exerce le discernement. » Voyez, cela est devenu si... J'ai essayé de vivre très près de Dieu, et en faisant cela, ça produit quelque chose qui met les gens, en quelque sorte, dans une position si difficile qu'ils ne savent plus trop quoi penser. Et aussi, au sujet du problème d'impôts que nous avons connu, cela n'aurait jamais eu lieu si j'avais simplement écouté le Seigneur. C'est toujours quand je lui désobéis, c'est là que j'ai toujours des ennuis. Si seulement j'avais écouté attentivement et marché avec lui. Et alors cela rend parfois le ministère est si surnaturel que j'avais peur de me retrouver sur cet autre terrain. Mais là, je ne veux pas dire, je veux que tout le monde saisisse bien ceci. Je ne suis pas en train de dire que je m'éloigne, que je vais m'éloigner du Seigneur. Mais je ne veux plus faire quoi que ce soit qui ait trait au surnaturel. Voyez, les choses comme exercer le discernement et ce genre de choses. Bon, entre-temps, le Seigneur nous a comblés de grâce. Il a suscité frère Neville, qui donne une parole de prophétie. Il a frère Higginbottom et beaucoup d'autres frères ici, qui sont absolument opèrent des miracles dans l'Église grâce aux dons spirituels. Permettez-moi de vous donner un témoignage. Il y a une sœur Opal Weaver. Je ne sais pas si elle est avec nous ici à l'église ce matin ou pas. Êtes-vous ici, sœur Opal? Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à la voir. Oh, eh bien, il y a plusieurs années, elle se mourait du cancer. Et ce cancer qui était dans les glandes féminines était monté dans ses reins. Il ne lui restait qu'une nuit à vivre. Son état s'était complètement dégradé. J'étais allé prier pour elle et j'ai vu dans une vision qu'elle était totalement guérie. Ça fait déjà une 15aine d'années. Elle vient ici fidèlement depuis des années et des années. L'autre jour, elle s'est retrouvée dans un état où elle avait attrapé un mal de gorge et elle avait eu une hémorragie dans la gorge. On lui a recommandé de rencontrer rapidement un médecin. C'est arrivé pendant que j'étais au Canada. Elle a fait appel à frère Neville. Et frère Neville est allé chercher notre frère Higginbottom. Je ne pense pas que frère Higginbottom est ici ce matin. Il se peut qu'il soit là. Frère Rupert Higginbottom, c'est l'un de nos anciens administrateurs. Un brave frère. Est-il ici? Alors, ils sont allés prier pour la femme. Et après avoir prié pour elle, à ce moment-là, ça faisait 10 jours qu'elle avait une hémorragie. Je ne sais pas depuis combien de temps, 2 ou 3 jours. et elle crachait continuellement du sang. Frère Neville a prié pour elle et elle n'a plus jamais craché une seule goutte de sang. C'est vrai. Et aussi, elle avait deux excroissances, de l'urticaire ou quelque chose de ce genre, dans le palais de sa bouche. C'était comme des ampoules ou quelque chose qui pendait de son palais, comme de grosses bosses. Ces choses ne lui donnaient aucun répit. Et c'était, elle a dit, elles ont à peu près la moitié de la taille d'une noix de hickory. Et ça faisait pas mal de temps, quelques jours, qu'elle les avait dans la bouche. Et frère Higginbottom, comme je ne prononce pas très bien ce nom allemand, frère Rupert, veuille me pardonner pour cela. Mais de toute façon, il se peut que je me trompe à ce sujet. Ou non, je crois qu'il a le don du parler en langue et de l'interprétation des langues. Entre-temps, il lui avait imposé la main sur le visage. Elle a dit, « Frère Branham, ça ne s'est pas produit hier, ni la nuit dernière. » Mais ses bosses ont immédiatement disparu du palais de sa bouche, immédiatement. Par la suite, les médecins sont venus, ils ont examiné sa gorge et tout, et ont dit, il faut qu'elle aille à l'hôpital, parce qu'elle a un cancer de la gorge. Alors ils l'ont emmenée à l'hôpital. Je ne savais même pas qu'elle y était jusqu'à ce que je rencontre notre bon pasteur, Fresneville, là-bas. J'étais en route vers l'hôpital, et il m'a dit qu'elle s'y trouvait. Je suis donc allé la voir, et son mari était assis là. Et quatre ou cinq médecins qui étaient venus et lui avaient fait des prélèvements avaient secoué la tête et dit « C'est effectivement un cancer causé par un virus. C'est un cancer. » Donc, l'interne est entré et a prélevé un échantillon. Il a dit « Sans aucun doute, ça, c'est un cancer. » J'ai dit « Mais, sœur, si Dieu vous a déjà guéri du cancer une fois, peu importe ce que c'est, peut-être que ces hommes ont raison. Ces hommes ont été formés dans ce domaine. Ils peuvent déterminer s'il s'agit d'un cancer ou si cela ressemble à un cancer ou quoi que ce soit d'autre. Ces hommes sont formés pour ça. Cela ressemble à un cancer. C'est pour cela qu'ils disent que c'est un cancer. Et j'ai dit, c'en est probablement un. Mais elle ne voulait pas croire qu'il s'agissait d'un cancer. Alors j'ai dit, mais si Dieu a pu exaucer cette prière à ce moment-là pour arrêter l'hémorragie, que Dieu a pu exaucer la prière et enlever ces grosses choses de votre bouche. Quoi que cela puisse être, Dieu ne peut-il pas arrêter cela à l'instant? Elle a dit « Amen ». Et son mari était assis là. Et elle a dit « C'est ce qui me donne la force en ce moment, que Dieu va arrêter cela. » Et j'ai prié pour elle. Puis, ils ont fait examiner les échantillons. Et le résultat était négatif. Alors que tous disaient que c'était un cancer. Voyez? Mes amis, le fait est qu'il est Dieu et qu'il exauce la prière. Et nous sommes tellement heureux qu'il nous visite ici, dans ce modeste petit tabernacle. Ça ne paye pas de mine. Ce sont de vieilles planches que nous avons assemblées là, il y a de nombreuses années, pour nous servir d'abri, un toit au-dessus de notre tête plutôt, pour nous abriter de la pluie, de la neige et tout. Mais beaucoup de gens sont vivants aujourd'hui grâce à cet effort. Et nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour nos administrateurs, nous sommes reconnaissants pour nos diacres, nous sommes reconnaissants pour notre assemblée, et nous sommes reconnaissants pour notre pasteur. Nous sommes reconnaissants pour chaque don qu'il a suscité dans l'Église. Et nous le prions d'accorder à ces hommes la compréhension afin qu'ils n'aillent jamais du mauvais côté, mais qu'ils restent en plein milieu de la route avec ça. Qu'il ne s'enfle jamais d'orgueil ou quoi que ce soit d'autre. Dès que vous le faites, c'en est fini de vous à l'instant même. Vous voyez, demeurez vraiment humble avec ça. Et vous voyez maintenant, alors que les gens viennent, les malades et les affligés, pour qu'on prie pour eux, alors que je me reposerai là pendant peut-être un an ou deux, Dieu a donc pourvu d'un moyen pour prendre soin de cela pendant que je prendrai du repos quelque temps. Voyez, oh, n'y a-t-il pas de quoi être reconnaissant? Cela devrait. Devrions-nous en être reconnaissants? Dieu ne permet jamais qu'il soit sans témoin, et nous en sommes très heureux. Bon, la semaine prochaine, si le Seigneur le veut, j'ai l'intention d'amener mes petites filles, qui viennent de terminer l'école, pour les vacances scolaires. Je vous prie donc de penser à nous dans vos prières. Ma fille aînée, qui est au secondaire, veut voir l'endroit où Paul Revere a fait sa chevauchée de minuit, l'endroit où il a quitté l'église là-bas. Et nous, c'est juste là-bas, en Nouvelle-Angleterre. Et nous voulons aller voir ça. Aussi, j'ai toujours voulu voir le Old Ironsides. Combien ai-je entendu le poème Old Ironsides? De tous les poèmes que je connais, c'est mon préféré. En dehors des poèmes chrétiens, c'est celui que j'aime le plus. Quand je me mets à le lire, je deviens tout ému. Je m'assois, je marche un peu et je retourne m'asseoir. Comment serait-il possible de le faire couler après? C'est comme si vous tuiez un cheval, après qu'il vous a permis de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Je ne peux tout simplement pas concevoir cela. Alors, je le ferai disparaître. Non, ne le faites pas. Quand je pense que les boulets de canon britanniques ont ricoché sur sa vieille coque en bois de chêne, je ne vois vraiment pas comment on peut l'emmener là pour le couler. Donnez-le donc au Dieu de la tempête, de la foudre et du vent violent. J'aime vraiment ça. Et ensuite, nous voulons nous rendre à... Bon, Monsieur Kennedy ne nous y a pas invités, mais nous voulons vraiment voir la Maison Blanche pendant que nous serons là-bas. J'y suis allé plusieurs fois, mais les enfants veulent la voir. Puis, nous reviendrons à la maison, si le Seigneur le veut. Alors, priez pour nous. Nous prions pour tous nos bien-aimés d'ici qui sont en vacances. Beaucoup d'entre eux sont en déplacement à différents endroits. Certains d'entre eux sont partis ce matin dans le Kentucky, dans le Tennessee et à différents endroits. Alors, nous prions pour eux. Eh bien, j'avais une autre annonce à faire au sujet de quelque chose d'autre. Oh oui, immédiatement après ce service, il y aura le service de baptême. Et aussi, je crois qu'on fera une consécration de bébés. Le frère m'en parlait tout à l'heure. On fera la consécration des bébés. Et tant de choses dont il faut nous Pardon? Eh bien, je ne compte pas prendre les deux réunions. Vous voyez, je vais en prendre une et frère Neville prendra l'autre. Et je ne peux pas, ce n'est pas, alors que nous sommes ici tous les deux. Pourquoi un seul devrait-il faire tout le travail? N'est-ce pas vrai, frère Neville? C'est tout à fait vrai. Ainsi donc, Doc m'a dit de vous rappeler ces choses, vos engagements par rapport au tabernacle, que l'Église, ils comptent construire l'Église dès qu'ils en auront recueilli suffisamment pour cela. Ainsi donc, il me semblait qu'il y avait quelque chose. C'est peut-être quand vous m'avez parlé de ça, de la consécration des bébés. C'est ce que c'était. Nous allons le faire immédiatement à la fin de ce service-ci. Bon, je suppose que ces mouchoirs sont ici pour qu'on prie sur eux, n'est-ce pas? Très bien, monsieur. Nous le ferons au même moment et ensuite. Maintenant, avant d'aborder la parole, combien savoure la parole? Oh là là, c'est comme vivre sur la montagne. Vous avez remarqué, vous avez pu voir depuis dimanche dernier ce que ça veut dire de faire les choses à la manière de Dieu. Voyez, quand j'ai vu que c'était un esprit qui s'était glissé parmi ses précieux frères, il est impossible à l'homme naturel d'ôter cela. Alors, la seule chose qui nous restait à faire, c'était d'abandonner cela ou de remettre cela entre les mains du Seigneur. Et, en quelques heures, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, pasteur, comme je serai en déplacement, puisque je suis ton adjoint ici dans l'œuvre du Seigneur, et comme Paul le dirait, je te conjure devant Dieu et devant les anges élus, tu vois. Et je dis à cette église que c'est là un parfait exemple de ce qu'il faut faire si quelqu'un se conduit mal dans l'église. Voyez? Maintenant, s'il survient quelque chose de mal dans l'église, que celui qui sait que c'est quelque chose de mal aille vers la personne. Et si la personne ne veut pas se réconcilier, la prochaine étape, c'est de prendre un témoin et d'y aller, ou peut-être un ou deux témoins, et d'aller voir cette personne afin qu'elle se réconcilie ou qu'elle rectifie la chose. Maintenant, écoutez attentivement. Eh bien, on enregistre aussi ceci. Et alors, si ça ne marche pas, ne permettez jamais qu'un petit isme, un petit ceci ou cela, un petit ressentiment naisse parmi vous. Ôtez cela immédiatement du chemin. Alors, c'est le petit renard qui ravage les raisins, vous savez. Donc, ôtez ça du chemin. S'il y a un quelconque sentiment bizarre, allez en parler à la personne. dites, j'ai tort, j'ai le sentiment d'avoir mal agi envers toi, ou quelque chose de ce genre. Aide-moi dans la prière, afin que j'améliore ma conduite. Car nous ne voulons rien d'autre parmi nous, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu, pur et sans mélange. C'est tout ce que nous voulons. C'est là que les dons et tout opéreront comme il faut, et que tout ira comme il faut. Pourquoi avoir une demi-église quand on peut en avoir une entière? Pourquoi accepter de prendre un substitut alors que les cieux sont remplis de ce qui est authentique? Voyez, nous n'en voulons pas. Alors, si jamais un petit sentiment bizarre naît parmi vous, l'un envers l'autre, allez vers la personne. Vous dites, « Eh bien, ils m'ont fait !» Rappelez-vous, ce n'est pas si vous avez commis une erreur ou une faute à l'endroit d'un frère, mais si un frère a quelque chose contre vous, voyez, allez vers lui et réconciliez-vous. Dites-lui que vous avez un sentiment bizarre à son sujet, que vous voulez être en bon terme avec lui, et allez prier à l'autel et ôtez cela du milieu de vous. Or, Satan, il va vous taper dessus constamment jusqu'à la fin de votre séjour sur cette terre. Souvenez-vous bien de ça. Il n'y aura jamais de répit pour vous. Il y aura des coups continuellement parce que vous êtes dans un combat. Avez-vous demandé de venir à Christ en vous attendant à une partie de plaisir? Eh bien, vous aurez toute une surprise parce que c'est un combat continuel. Je suis sur le champ de travail depuis 31 ans et je me suis battu pour chaque pouce de terrain. C'est vrai, Israël a dû se battre pour chaque pouce de terrain. La Palestine leur avait été donnée, mais ils ont eu à se battre pour prendre possession de chaque pouce du terrain. Bon, maintenant, souvenez-vous de ceci, que si quelque chose survient dans l'église, alors que le pasteur, s'il le faut, venez chercher le pasteur, afin d'aller ensemble rencontrer la personne. Et si elle refuse de vous écouter, alors venez devant l'église et parlez-en à toute l'église. Donnez-lui un certain délai pour se réconcilier, par exemple, d'un dimanche à l'autre. Et si elle refuse d'écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. En fait, vous voyez, aussi longtemps qu'ils bénéficient de la protection de l'église, Satan ne peut pas les atteindre. Mais une fois que l'église les met hors de la protection de l'église et du sang de Christ, alors Satan se met à agir sur eux. Cela les poussera à se réconcilier. Voyez, tu comprends cela, n'est-ce pas, pasteur? Oui, monsieur. Donc, c'est ce qu'il faut toujours se souvenir de faire, c'est de se réconcilier, de venir à Dieu et de faire les choses à la manière de Dieu. Qu'est-ce que cela nous démontre? Il y a deux ou trois de nos frères qui savent combien j'ai souffert à cause de cette situation pendant 2 ou 3 ans. C'est vrai, mais quand je suis arrivé là où je me suis mis dans la peau de ces hommes et j'ai finalement pu avoir tant d'amour pour ces hommes qu'ils ne pouvaient pas le nier, j'ai pris des témoins, mais ça n'a pas marché. J'ai dû présenter cela devant l'église. Et dimanche dernier, j'ai dit depuis l'estrade, je ne veux plus jamais en entendre parler. Je m'affranchis de tout ça. Je remets ça entre les mains de Dieu. Voyez, je le lui confie. Et immédiatement, cela montrait que ces gens étaient appelés. Ça, en fait, s'ils ne l'avaient pas été, face à la correction de l'Écriture, un homme qui ne supporte pas la correction de l'Écriture, qui se met vraiment en colère et qui explose, cela montre qu'il n'est pas en règle avec Dieu. C'est vrai. Mais la parole de Dieu amènera un authentique saint de Dieu à se réconcilier avec Dieu. C'est vrai. Et la correction vient par la parole. Ses frères devraient être très reconnaissants envers Dieu que, vous voyez, la Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèverait de faux Christ qui séduirait même les élus s'il était possible. Mais ce n'est pas possible. Non, monsieur. Les élus ont été prédestinés. Ils ne seront donc pas séduits, vous voyez. Donc, aussitôt que ses frères, ils sont venus là-bas, chez moi, le lendemain, vous voyez, et ils ont même commencé à me donner leurs références dans les Écritures. C'est alors que, par les Écritures, le Saint-Esprit a tout simplement réfuté tout ce qu'ils disaient, vous voyez. Et voilà, ils ont compris. Ce groupe d'élus est reparti dans la présence de Dieu. Je suis reconnaissant pour des gens comme ça. Oui, monsieur, ce sont de vrais hommes. Quand on voit quelqu'un qui a tort et qui lui est démontré qu'il a tort, alors cela montre qu'il veut être un chrétien. Il s'avance et dit « J'ai tort ». Ça, Ça, c'est un vrai chrétien. Mais ce gars-là qui explose et part en courant d'un côté et dit « Ah, cela ne vaut rien » et tout. Fais gaffe, mon frère. On peut voir tout de suite qu'il est reparti condamné parce qu'il n'était pas des nôtres. Mais, pasteur, tenez-vous-en toujours à la parole et ça réglera la question chaque fois. Mais il vous faut vous en tenir à la parole. C'est la raison pour laquelle, quand je viens, bon, je n'exerce plus le discernement aux États-Unis. J'ai l'intention de ne plus jamais le faire pour le reste de ma vie, sauf outre-mer et dans les champs de mission à l'étranger et tout. Bien sûr, puisque c'est un don prophétique, ça sera toujours là, mais je garderai cela pour moi et je laisserai ça suivre son cours, parce que c'est le jour est trop avancé maintenant pour que ça, la chose continue. Nous sommes trop près de la fin du temps. Mais dans les champs de mission à l'étranger, il suffit d'un ou deux cas sur l'estrade. Et frères, je vous le dis, ils sont déjà convaincus. Et nous en avons des imitations charnelles. Oh là là, c'est vraiment déplorable. Regardez, combien y a-t-il de pentecôtistes ici? Levez la main. Très bien. Écoutez, vous, les pentecôtistes, il y a quelques années, Dieu est vraiment descendu sur vous et vous vous êtes mis à parler en langue. C'est vrai, mais qu'a fait le diable? Il est venu et on a donné une imitation charnelle. Il a fabriqué quelque chose de faux. Il a fait que les gens se mettent à parler en langue. Il leur a donné de prononcer certains mots et de dire certaines choses pour leur permettre de parler en langue et tout. Et pourtant, ce sont des hommes qui vivent avec la femme d'un autre homme et qui font toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Certains d'entre eux boivent, fument et tout, et parlent quand même en langue. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour que le son de la vraie trompette soit confus aux oreilles des gens. À ce moment-là, qui peut se préparer au combat? Voyez? Alors, quand cela s'est produit, bon, nous avons des gens dans l'auditoire. Il y en a un, juste, qui m'a précédé là-bas au Canada. Même les agents l'ont épinglé pour homosexualité. Voyez? Il disait, Dieu m'a donné le don de discernement. Il disait, Alléluia, j'ai. Il disait, le Seigneur m'a dit qu'il y a ici quelqu'un du nom de Jean. Une petite femme est venue ici un matin. Elle s'est présentée là. Vous vous en souvenez? Elle s'est présentée là et elle a dit, le Seigneur m'a donné le même don. Et j'ai dit, et alors? Elle a dit, j'aimerais avoir la possibilité de démontrer ça. J'ai dit, voilà l'estrade. Et vous avez vu ce qui s'est passé. De la pure psychologie collective. Voyez? Mais quand vous avez vu Sœur Snyder se présenter là et qu'elle lui a dit qu'elle souffrait d'arthrite, ça a réglé la question. Quand Sœur Snyder, alors j'ai dit, ce n'est pas ce qui ne va pas chez cette femme. J'ai dit, elle est tombée et s'est brisée la hanche. Et j'ai dit, là, elle ne se tient même pas debout. Bien sûr, Sœur Snyder était un peu dure d'oreille. Et elle a dit, et je crois que ce qu'elle avait, ce qui n'allait pas, c'était une tumeur dans l'estomac ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, voilà ce que c'est. Pendant tout ce temps, j'étais assis là, à en parler aux frères. Voyez? Mais c'est juste pour montrer, pour que l'Église voit que c'est une imitation charnelle. Voyez-vous? Et qu'est-ce que cela produit? Cela fait en sorte que la vraie trompette... quand j'étais au Canada, ils ont arrêté cet homme qui était allé. Il avait dit, là, parmi un groupe de Norvégiens, il avait dit, « Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici, devant une foule qui était environ 10 fois plus grande que celle-ci. Quelqu'un du nom de Jean, peut-être Johannes, Johan. » Il a dit, « Quelque part, ici, je crois. » Il a dit, « Non, a-t-il dit, il est quelque part, par ici. » Bien sûr, ils l'ont fait sortir. Dans une région peuplée de Norvégiens, et tout le monde avait, 90% d'entre eux s'appellent Peterson, Carlson, Jean, Johannes et tout, certainement. Vous voyez, il était certainement, il devait bien y en avoir un quelque part dans le groupe. Puis, le Seigneur me dit que quelqu'un a un problème de dos. Je sens une douleur dans le dos. Toute personne qui a été enseignée selon les Écritures sait que ça, c'est de la psychologie. Ça l'est, assurément. Mais voyez, qu'est-ce que cela a produit? Par la suite, cet homme était arrêté par le FBI d'ici. Il a envoyé une requête là-bas et on l'a fait arrêter par la gendarmerie royale. Et l'association pastorale est venue me voir. Et un homosexuel. Ont-ils dit, Frère Branham est probablement la même chose. C'est comme ça que ça se passe, voyez? Qu'est-ce que cela cause? Cela rend le son de la trompette confus, voyez? tout à fait. Il en a toujours été ainsi. Essaye de faire des choses comme ça afin de rendre un son confus. C'est le rôle de Satan de faire cela. Mais maintenant, ne déviez jamais de la parole. Souvenez-vous, je vous en conjure devant Dieu. Tenez-vous-en à cette parole. N'en déviez jamais. Et s'il survient parmi les gens des choses de ce genre, chaque fois qu'il y a un faux, l'authentique existe. S'il y a un faux dollar, cela montre qu'il a été fabriqué à partir d'un vrai dollar. Quand on entend un hypocrite parler en langue, on ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Mais souvenez-vous, il imite un authentique croyant qui a bel et bien le don de parler en langue. Quand vous voyez ces choses qui sont fausses, souvenez-vous qu'elles sont une imitation de celles qui sont vraies. Dieu est l'auteur de toutes bonnes choses, mais Satan imite ses dons. Eh bien, si je me mets à parler de cela, on n'arrivera pas à notre leçon, pas vrai? Oui, frère. Amen. Oui, monsieur. Oui. Amen. Merci, frère Ben Bryant. Eh bien, c'est exactement... Je suis content que vous ayez dit cela, frère Ben. Vous voyez, en fait, ces hommes sont allés partout réparer leurs fautes. Eh bien, voilà le vrai christianisme. Ça, c'est le christianisme en action. Quand vous avez tort, allez reconnaître que vous avez tort. Voyez, levez-vous et dites, j'ai tort. Voyez, pardonnez-moi. Or, quelqu'un qui essaie de cacher sa faute, c'est qu'il couvre quelque chose. Non, monsieur, j'aime comme un petit docteur ici qui, vous voyez, je ne dirai pas ça de lui, mais de toute façon, il voulait faire un petit quelque chose, vous savez. Et j'ai dit, oh non, doc, on ne peut pas acheter Dieu. J'ai dit, il faut jouer carte sur table. C'est vrai, il faut présenter les choses comme ça. Bien sûr, cet homme n'était absolument pas en train d'essayer de faire quoi que ce soit de mal. Il se disait tout simplement que c'était un bon moyen d'acquérir un terrain. Et il n'essayait pas d'obtenir des passe-droits. Il essayait de l'acquérir honnêtement. Mais il voulait juste, il a dit, il connaissait un moyen de contournement. Amener quelqu'un à faire une certaine chose qui influencerait une autre personne, là. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut procéder. Faites les choses ouvertement, voyez. Tenez-vous-en strictement à la parole. Et là, tout ira bien. Tenez-vous-en strictement à la parole. Dieu l'a béni et a fait quelque chose de merveilleux pour lui. Oui, monsieur. Très bien. Courbons la tête maintenant pour la prière. Combien aimerait qu'on se souvienne d'eux dans la prière? Je connais une dame, assise ici dans un fauteuil roulant, qui aimerait certainement qu'on pense à elle, je crois. Et cette sœur ici, et tous les autres, regardez, d'un bout à l'autre de la salle. Maintenant, mettons tout de côté et entrons dans l'adoration. C'est pour ça que nous sommes ici, pour adorer pendant les 35 ou 40 prochaines minutes. Et maintenant, Seigneur, alors que nous nous tranquillisons devant toi, ayant le sentiment que notre grand Josué, le Saint-Esprit, notre conducteur divin d'aujourd'hui, comme Josué qui a tranquillisé le peuple devant Moïse et a dit, « Nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. » Car il regardait non pas aux Amalécites ou aux Amoréens, mais il regardait à une promesse divine qui avait été donnée par Dieu. En ce jour de chambardement, où le monde se trouve dans cet état, et en ce beau matin de sabbat, nous nous tranquillisons devant toi, et nous disons, au milieu de toute cette imitation, cette comparaison charnelle, face à tout le mal et aux esprits induits en erreur, combien nous regardons à la parole de Dieu, et nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Dieu a dit qu'il aurait une église en qui il n'y aurait ni tache ni ride. Et nous savons que nous verrons cette Église un de ces jours. Et en tant que membres, nous luttons. Nous croyons que nous sommes membres de cette grande assemblée de Dieu, de gens nés de nouveau, et de l'Église sur la face de la terre aujourd'hui. Et nous nous approchons solennellement de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Et alors que nous venons humblement, nous te prions d'ôter de nos pensées et de nos cœurs toutes les choses du monde, toutes les peines de la vie et les soucis, et que toi, ô Dieu, tu accordes que nous soyons dans un état d'adoration, afin que nous puissions t'adorer par l'écoute de ta parole. Maintenant, comme Jean dans notre leçon de ce matin, qui a beaucoup pleuré parce qu'aucun homme n'avait été trouvé digne de prendre le livre, nous pourrions pleurer dans notre cœur ce matin, Seigneur, car il n'y a personne qui soit digne d'ouvrir ce livre. Mais comme les pleurs de Jean n'étaient que pour un peu de temps, il a rapidement été consolé et l'agneau est venu et a pris le livre. Ô agneau de Dieu, viens prendre le livre ce matin et ouvre-le pour nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Comme nous sommes incapables, nous attendons de rassasie-nous par ta présence et par ta parole. Beaucoup de mains se sont levées vers toi, ô agneau de Dieu. Nous savons que tu connais chaque cœur, car tu connaissais d'avance leurs intentions. Et tu es autant Dieu aujourd'hui que tu l'as toujours été, et tu seras toujours le même, parce que tu es parfait et infini, et que tu ne peux pas changer. Et nous te prions ce matin de nous rassasier. La requête de chacun, accorde, Seigneur, qu'au moment de quitter le bâtiment, ils soient tous satisfaits d'avoir été dans la présence de Dieu, et qu'ils repartent ayant obtenu ce que leur cœur désirait. Seigneur, n'oublie pas de m'inclure aussi dans ce nombre, car c'est au nom de Jésus que je le demande. Amen. Maintenant, prenons notre précieux livre, alors que nous nous attendons à ce que l'agneau ouvre ses sceaux, ou plutôt ce livre pour nous. Prenons maintenant, nous sommes au chapitre 5 du livre de la révélation de Jésus-Christ. Bon, à mes amis du monde entier qui écouteront ceci sur bande magnétique, je veux dire qu'ici, il faut que j'apporte des éléments de doctrine et ainsi de suite pour traiter de ceci. Et tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Donc, si vous estimez que votre assemblée ne devrait pas écouter cette bande, alors ne les laissez pas l'écouter. Mais ceci, c'est simplement l'expression de mon opinion personnelle, de mes sentiments personnels et de la révélation personnelle que j'ai de la parole de Dieu. Bon, il y a quelques mois, nous avons fait un retour en arrière et nous avons mis en contexte il y a quelques jours, nous avons mis le chapitre 4 en contexte du chapitre 3 au chapitre 4. Et là, dimanche dernier, nous avons fait un retour en arrière sur le chapitre 4 pour aller au chapitre 5. Ainsi donc, aujourd'hui, nous voulons mettre en contexte le chapitre 5 et poser un fondement pour le chapitre 6 qui suivra. Et aujourd'hui, mon but est de préparer les Écritures en vue de peut-être, dans les temps à venir, je ne sais pas quand, mais si le Seigneur nous l'accorde, faire un jour une série de réunions de 7 jours au tabernacle pour présenter les 7 sceaux. Nous avons vu les 7 âges de l'Église. Maintenant, nous prendrons 7 soirs pour traiter des 7 mystérieux sceaux de Dieu. Nous ouvrirons 1 sceau chaque soir jusqu'à ce qu'on finisse tous les 7 sceaux. Eh bien, je ne sais pas quand le Seigneur nous accordera de le faire, mais s'il nous l'accorde, je vais simplement en poser le fondement ce matin. Quand nous aurons fini les derniers versets de cet écrit, de ce passage-ci, ou de cette portion de l'Écriture, nous verrons les 70 semaines de Daniel. Et nous ferons le lien entre les 3 dernières semaines et le jubilé de la Pentecôte, ce qui amènera les gens au dernier sceau. Et là, nous serons prêts pour l'ouverture des sceaux par l'agneau. Souvenez-vous, les sceaux, ce sont des choses mystérieuses. Le livre était scellé, et c'était au dos que se trouvaient 7 sceaux, qui n'étaient même pas révélés dans le livre. Ces choses ne sont même pas écrites dans la Bible. Mais si quelqu'un en donne une interprétation, il faudrait que cela concorde avec le reste de la Bible. Et, oh, je suis certain que vous allez en retirer des bénédictions. Du moins, je le pense. Je l'espère bien. C'est à peine si j'ai réussi à mettre mon veston à temps pour venir ici ce matin. Parce que j'étais assis là, à lire. Et le Saint-Esprit m'inondait continuellement de sa bonté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Oh, si je pouvais simplement le dire là-bas, exactement comme tu me le donnes ici, nous passerions tous un moment merveilleux. » Mais pour une raison ou une autre, lorsqu'on se tient devant les gens, on ne se sent pas comme quand on est en prière, tout seul et tout. Ainsi donc, pour revenir au premier verset, nous voyons maintenant, pour récapituler où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier, nous voyons ici que Paul, dans Éphésiens 1, 13 et 14, nous a dit que nous avons le gage de notre salut, le gage de notre rédemption. Car c'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre rédemption. Et ceci, au cours des prochaines semaines, nos enseignements seront tous basés sur la rédemption. Voyez, sur la rédemption, pas sur la justification. Non, c'est basé sur la rédemption, pas sur la fonction de médiation pour l'intercession, mais sur le rachat. Oh, un héritage qui avait été perdu ou dont on avait été déchu, mais qui était racheté et nous a été ramené. Et aussi comment tout cela s'est produit, comment Dieu avait prévu tout cela avant même qu'il y ait un monde, et combien l'Église est ancrée solidement. Je pense que nous sommes arrivés au point où nous devons connaître notre position. Comment pouvez-vous faire quoi que ce soit à moins d'avoir la foi en ce que vous faites? Vous devez avoir la foi. Et c'est dans ce but que je fais ceci avec cette Église, afin de donner aux croyants d'avoir foi et confiance dans la position qu'ils ont prise, car il s'agit de la parole du Seigneur. Ainsi, tant que cela est clairement établi d'un bout à l'autre des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, de long en large et de haut en bas, il n'y a aucun moyen que le diable puisse s'y glisser. Alors, on a une confiance parfaite, voyez, on sait à quoi s'en tenir. Ce serait pareil pour notre sœur qui est ici dans un fauteuil roulant, ou peut-être pour d'autres qui sont malades et affligés. Si vous pouvez parfaitement comprendre que Dieu a trouvé bon de vous guérir, il n'y aura pas assez de démons dans le pays pour vous maintenir dans la maladie. Voyez, c'est vrai, quand vous comprenez que Dieu a trouvé bon de vous guérir et qu'il l'a fait pour vous, vous comprenez alors combien vous devez aller faire une certaine chose. Tenez, si je vous disais de tout mon cœur, si vous aviez faim et que vous mouriez de faim et que vous aviez une entière confiance en moi en tant que personne honnête et que je vous indiquais l'endroit où trouver 1 000 $, comment arriver là où il se trouve, le chemin à emprunter et précisément où aller, et que vous compreniez parfaitement où l'argent se trouve. Voyez, vous vous mettriez à vous réjouir à l'instant même, exactement comme si vous aviez déjà reçu l'argent, si vous me croyez. Vous voyez donc qu'avant même d'avoir, de sentir le moindre changement ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez tout autant vous réjouir au sujet de votre guérison et déclarer que vous êtes guéri parce que vous êtes sûr et certain que vous l'êtes, puisque vous avez confiance en celui qui vous en a fait la promesse. Voyez, votre confiance réside dans le fait qu'il ne peut pas mentir et qu'il vous a dit exactement où cela se trouvait. Et puis vous avez confiance que vous l'avez déjà obtenu, parce que c'est votre foi qui est le gage de votre rédemption. Autrement dit, vous cherchez à être racheté de la maladie, et votre foi, c'est cette ferme assurance de cette, ou plutôt le gage de votre guérison. Tant que quelque chose dit dans votre cœur, « Je suis le Seigneur qui te guérit », c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est, oh, vous pouvez simplement commencer à vous réjouir, quoi qu'il arrive. Si vous ne l'obtenez pas, si votre état empire, vous êtes tout aussi heureux que vous le seriez si vous étiez parfaitement rétabli, parce que vous avez l'assurance que c'est terminé. Combien comprennent cela maintenant? Levez la main. Voilà, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi donc, nous voyons qu'au tout début du chapitre, nous voyons que le chapitre 5, n'est qu'une pierre d'attache. C'est une attache de diamant qui permet de faire le lien avec la dernière partie de l'âge de l'Église, du chapitre 3. Le chapitre 4 raconte que Jean a été ravi au ciel. Et le chapitre 5 est la préparation pour ces... Là, on étudiait les sept âges de l'Église. Et au chapitre 4, Jean a été ravi. Et au chapitre 5, il est question de présenter les éléments en vue de l'ouverture des sept sceaux. Tout comme il en était au chapitre 1 de l'Apocalypse pour ouvrir la voie aux sept âges de l'Église. Là, il se tenait au milieu des sept chandeliers d'or et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il faisait des préparatifs pour ces sept âges de l'Église. Maintenant, il fait des préparatifs pour l'ouverture de ces sept sceaux de la rédemption. Vous voyez, voilà ce qu'il en est du chapitre 5. C'est un peu pour cela que je l'ai lu et que je me suis servi de cela comme base. Et j'ai prêché là-dessus, et j'ai donné les autres passages de l'Écriture. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui se produit verset par verset. C'est une préparation à quelque chose qui se produira. Et si vous saisissez la préparation, alors vous avez tout simplement, là, vous êtes prêt pour cela. Et c'est pareil pour la foi, ou pour quoi que ce soit d'autre. Maintenant, ceci, les sceaux, j'ai noté ici quelques passages de l'Écriture, et quelques commentaires, et tout. Alors, dans Éphésiens 1, 13, 14, nous, si vous voulez le noter, là, nous avons maintenant le gage, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Autrement dit, c'est l'assurance, le gage, c'est l'assurance, la compte qui indique que nous avons été admis en Christ. C'est l'espérance bénie et l'assurance que nous avons bel et bien la vie éternelle et que nous sommes héritiers de tout ce qu'il a acquis pour nous. Oh là là! Pouvez-vous voir ça? Oh, quand nous avons été scellés du Saint-Esprit, je ne cesse de le répéter, parce que je ne veux pas que cela vous échappe. C'est là le sceau d'approbation de Dieu qui indique que tout ce pour quoi Christ est mort nous appartient. C'est Dieu qui déclare, « Je vous ai maintenant accueilli et je vous ai donné ce sceau. Vous attendez simplement ce moment-là. » Celui de notre pleine rédemption, puisque, effectivement, nous sommes déjà en partie rachetés. Comme je l'ai dit dimanche dernier, je crois, c'est ici, en bas, à ce niveau inférieur, que vit le pécheur, dans la corruption, la saleté, la souillure, la crasse. Eh bien, ces gens sont peut-être d'une propreté. Ils prennent un bain toutes les 4 heures. Ils portent peut-être les meilleurs vêtements. Ils sont peut-être des érudits raffinés au possible. Mais dans leur âme, ils sont tout aussi souillés et impurs que les murs sales de l'enfer. Voyez ? Or, le chrétien vit à un niveau plus élevé parce qu'il a le gage de notre héritage ici en haut. Il a été pris et élevé au-dessus de la crasse et de la souillure, ici en haut, et il vit au-dessus de cela. Oh, j'aime cela, comme Paul Rader l'a dit cette fois-là sur le tronc d'arbre. Vous savez, il a dit, je chevauche dessus, je chevauche simplement dessus. Voilà où s'en est maintenant. Assurance bénie, Jésus est mien. Oh, quel petit avant-goût! Il m'était donné de prendre une petite gorgée de cette source, de la gloire divine. Je suis maintenant un héritier du salut. J'ai été acquis par Dieu, né de son esprit et lavé dans son sang. Pas étonnant que ce soit là mon histoire, que ce soit là mon chant. Chantez, chantez ses louanges le jour durant. Vous voyez, élevé au-dessus des ombres, au-dessus de la crasse, un avant-goût. Nous avons maintenant le gage de notre héritage complet. Parce que Dieu nous a déjà déraciné des choses du monde et nous a plantés dans des lieux plus élevés. Il m'a élevé, m'a transétabli, m'a transformé à l'égard des choses du monde. Il a enlevé les racines, les branches et tout, et il m'a retiré du bourbier, de la vieille boue du péché. Et il m'a planté au sommet de la montagne de Sion, et je suis dans le verger des bien-aimés, des saints de Dieu. Et maintenant, nous sommes citoyens de ce royaume, des frères et sœurs en Jésus-Christ, et dont la pensée est dépouillée de toute souillure, de toute saleté et de toute méchanceté. Notre eau, notre corps est lavé avec de l'eau pure, et notre cœur est aspergé du sang du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit y demeure, et sa brise souffle dans nos branches le jour durant. Elle nous bouscule, nous pousse, nous fait bien prendre racine et nous ancre profondément. N'est-ce pas merveilleux? Le gage de notre salut, notre héritage perdu. C'est ce que révèle ce chapitre. Notre héritage perdu a été revendiqué par notre chair et précieux parent rédempteur. Comme Dieu est descendu et est devenu, a changé de rôle. De Dieu, il s'est fait homme, afin d'être humain, afin de devenir un parent rédempteur humain, dans le but de racheter un monde naturel pour un peuple naturel. Amen. Que Dieu, le surnaturel, est devenu naturel afin d'être un parent, parce qu'il ne pouvait pas transgresser ses propres lois. Il était obligé de se présenter en tant que parent ayant le droit de rachat, parce que c'est de cette manière qu'il... C'était là son plan. C'est ainsi qu'il a fait les choses. Dieu savait que l'homme tomberait, mais il ne pouvait pas causer la chute de l'homme. Dieu savait que l'homme serait perdu, quoiqu'il ne voulait pas que quiconque soit perdu. Mais pour que la grande expression des attributs de Dieu soit manifestée à tous les hommes, pour qu'il soit un rédempteur, pour qu'il soit un sauveur, il fallait que l'homme tombe. C'était dans la nature de l'homme de tomber, et c'était dans la nature de Dieu de le racheter. C'est l'arrêt. Il nous faut avoir la nuit pour mieux apprécier le jour. Il nous faut avoir la maladie pour bien apprécier la santé. Il faut le pour et le contre en toutes choses. Bon, notre parent rédempteur. Maintenant, je veux vous faire remarquer ceci. En ce moment, je regarde dans ce chapitre 5. Quand il a vu cela, « Ne crains pas ». C'est le verset 5. « Ne crains pas ». Voyez, il y a toujours, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. L'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et voici, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là. » Un agneau. pourquoi n'a-t-il pas vu l'agneau avant ? L'agneau était assis sur le trône du Père, au milieu des gardes. Jean ne pouvait pas voir ce qu'il y avait là, au milieu. Tout ce qu'il voyait, c'était ces êtres à quatre têtes, ou ces quatre êtres vivants qui se tenaient là, ou ces quatre chérubins qui se tenaient là pour garder le lieu saint. Et nous avons vu cela dimanche dernier et au cours des autres leçons. Il les voyait, mais il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait au-delà de ces choses. Et là, tout à coup, est apparu, mystérieusement, soudainement, quelqu'un est apparu, un agneau. Eh bien, remarquez que ce n'était pas un agneau, un animal naturel, puisqu'il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ça, un agneau ne peut pas le faire, voyez. Il était un agneau, c'était Christ. Autrement dit, dans ses attributs, il était doux et humble comme un agneau. Maintenant, remarquez, c'était un agneau rédempteur. Un agneau rédempteur comme le tout premier. Dieu ne peut jamais changer. Amen. Le premier rédempteur était un agneau dans le jardin d'Éden. C'était un agneau que Dieu avait offert. Et voilà que de nouveau, ici à la fin, dans l'Apocalypse, c'est encore un agneau. Pour racheter quoi ? L'état de déchéance et l'héritage déchu d'une race de gens déchus. Un agneau est revenu pour faire le rachat, comme il en a été au commencement, pour nous racheter. Pour racheter quoi ? De quoi va-t-il nous racheter ? Pour briser, l'amener à tout ce qu'on rachète, c'est quelque chose qui était perdu. C'est quelque chose qui était perdu et qu'on a ramené. Cet agneau, que nous ramène-t-il ? Tout ce que nous avions au commencement. Qu'avions-nous au commencement ? La vie éternelle. Nous étions les héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous n'avions pas à mourir. Nous n'avions pas à être malades. Nous n'avions pas à vieillir. Nous n'avions aucun souci. Là, il n'y avait pas de funérailles, pas de tombe, pas de mal, pas de mort, pas de cheveux gris, pas d'épaules tombantes, pas de deuil, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions autorité sur toute la terre. Nous étions des dieux, tout simplement, sur la terre. Nous nous promenions, et si un arbre n'avait pas l'air à sa place ici, nous disions, déracine-toi et place-toi là, et il obéissait. Si le vent soufflait, et que nous ne voulions pas que le vent souffle, silence, tais-toi, et il obéissait. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ? Racheter toutes ces choses pour nous les ramener. Oh, 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 oh là là ! Récupérer tout cela. Et maintenant, la nature elle-même soupire et attend quoi ? La manifestation des fils de Dieu. Que les fils de Dieu soient manifestés. Et nous avons maintenant le gage de notre salut. Nous pouvons prendre notre frère qui se meurt d'un cancer et avec ce petit souffle de rédemption, nous tenir là et prononcer sur lui la prière de la foi qui transformera cet homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même en un homme en bonne santé. Alors, que ferons-nous quand nous en aurons reçu la pleine mesure? Amen. La nature le sait. La nature soupire et nous soupirons aussi. La nature attend la manifestation des fils de Dieu. Parce que la nature a été maudite avec son maître. Quand son maître a été maudit, l'être supérieur, alors la nature est tombée avec le maître. Mais quand ce parent rédempteur est venu, alléluia, il a racheté l'homme qui est le maître de la nature. Alors toute la nature attend l'homme, son maître. Que faisons-nous ? Nous prenons la hache dans nos mains et abattons un arbre quand bon nous semble. Mais en ce jour-là, nous ne ferons pas cela. Amen. La nature tout entière attend son maître. Et ce maître, ce sont les fils de Dieu à qui cette terre a été donnée. Eh bien, Dieu aura ses cieux, bien sûr, mais ceci a été donné à l'homme. Et le parent rédempteur est venu racheter ce que nous avions perdu pour nous le redonner. Comme c'est beau! Oh là là! Je pense que c'est vraiment un agneau rédempteur. Quand l'œuvre sera terminée, nous aurons de nouveau toutes choses. Toutes choses, de quelle sorte? Nous aurons toute la puissance. Nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la santé éternelle. Nous aurons la jeunesse éternelle. Nous aurons la puissance éternelle. Oh, nous serons tout simplement éternels avec l'Éternel. Ainsi donc, nous attendons tous la venue de ce moment-là. Nous attendons et soupirons. Nous attendons. Et ce livre a sept parties relatifs aux sept plans de la rédemption nous a été apporté. Et c'est ce que contient ce livre. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 10, où cet ange puissant déclare quelque chose qui... Et il avait un petit livre que Jean devait manger. Et après l'avoir mangé, c'est descendu dans ses entrailles. Et c'était amer. Mais c'était doux sur ses lèvres. Au moment de le digérer, c'est là que ça devient amer. Tout le monde est contre vous. Tout le monde dit, vous êtes un exalté. Vous êtes ceci, cela ou autre chose. Voyez ? Vous êtes fou. C'est donc difficile de le digérer. Mais quand vous témoignez de sa gloire, c'est doux sur vos lèvres. Voilà, voyez. Et quand vous vous levez dans une réunion et que vous dites « Gloire à Dieu, allez !» Oh, quand on se retrouve dans ce terrible état de siège, c'est dur. Mais une fois qu'on sort de ce terrible état de siège, on peut en témoigner. Et là, c'est doux sur les lèvres. Voyez, c'est vrai. Ça, c'est ce livre de la rédemption. Bon, donc, nous voulons l'illustrer par un autre petit exemple ici, au verset 5. Et ensuite, nous allons commencer au prendre le verset 6 et commencer. Maintenant, je veux vous faire remarquer comment Dieu a préfiguré le plan de la rédemption. Il l'a parfaitement illustré avec Ruth et Boaz. C'est là que nous nous sommes arrêtés dimanche dernier. Eh bien, c'est donc par là que je veux commencer aujourd'hui avec Ruth et Boaz. Eh bien, il y a quatre étapes ou quatre jonctions dans l'histoire de Ruth et Boaz. La première, c'est Ruth qui prend une décision. Combien ont déjà entendu prêcher ce message? Levez la main. Je sais. Eh bien, vous tous, je suppose. Je l'ai déjà fait ici et je l'ai sur bande et tout. Tout d'abord, il a fallu que Ruth décide si elle irait avec Naomi dans ce pays ou pas. Il lui fallait prendre une décision. Puis, une fois arrivé là-bas, la chose suivante qu'il lui fallait faire, c'était de servir dans le champ de Boaz, pieds nus, là-bas dans le champ, à glaner derrière les moissonneurs. Elle servait. Puis, après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, il lui fallait attendre que Boaz accomplisse l'œuvre du parent rédempteur et qu'il récupère tout ce que Naomi avait perdu afin de faire entrer Ruth, la Moabite. Et l'étape suivante, c'est Ruth récompensée. Maintenant, regardez bien. Ruth qui prend une décision. C'est parfaitement... Oh, quiconque déclare que la Bible n'est pas inspirée, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. Chaque mot qui s'y trouve s'emboîte parfaitement comme la languette dans la rainure d'une planche. Ça s'emboîte parfaitement comme les engrenages d'une grande roue qui tourne, parfaitement calibré au millionième de seconde. Bon, maintenant, remarquez ceci. Ruth qui prend une décision. Il lui fallait déterminer si elle allait prendre la décision d'y aller ou pas. Il lui fallait prendre une décision. Eh bien, c'est ce que doit faire chaque croyant. Vous devez abandonner vos anciennes habitudes. Vous devez abandonner votre ancienne vie. Vous devez abandonner ces vieilles choses du monde. Frère Roy, est-ce que Sir Robertson est malade? Oh, c'est juste que je me disais qu'elle était peut-être malade, ou quelque chose comme ça. J'allais vous demander de l'amener ici, si elle était malade ou quelque chose comme ça. Elles avaient dû abandonner les anciennes habitudes de vie, ou quelque chose de ce genre, pour se rendre dans un nouveau pays, vers un peuple nouveau, qu'elles n'avaient jamais connu auparavant. Est-ce bien ce que vous avez fait, après être devenu chrétien? Vous avez abandonné la salle de billard. Vous avez abandonné les boîtes de nuit. Vous avez dû commencer à fréquenter un groupe de gens qui donnaient l'impression d'avoir des spasmes. Ils frémissaient, tremblaient, pleuraient, secouaient la tête et sautaient en l'air. Et bon, à vos yeux, c'était une, une bande de fous. Il vous a donc fallu décider si vous vouliez vous joindre à eux ou pas. C'est vrai. Et vous saviez que quand vous le feriez, les vôtres se moqueraient de vous, ceux que vous aviez quittés. Pas vrai? C'est tout simplement automatique. Vous n'avez qu'à... Ils auraient dû s'attendre à cela dès le départ. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, c'était pareil pour Ruth. Quelle serait la réaction des Moabites envers elle quand elle partirait pour se rendre en Israël, chez cette bande de fanatiques? Vous voyez, il lui fallait prendre une décision. Elle devait décider. Et vous devez décider. Et finalement, quand elle a pris sa décision, elle est allée dans le nouveau pays. Bon, ça, c'est la justification. Pas vrai? Maintenant, vous, Église, regardez ceci. Oh, c'est parfait. Vous savez comment nous... Combien d'entre vous m'ont entendu quand je prêchais sur la postérité d'Abraham, sur la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit? Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. Ruth, qui prend sa décision, était un type de l'Église, l'Église des nations. Elle a pris sa décision et elle s'est rendue dans l'autre pays. Maintenant, bien des fois, nous les méthodistes et les baptistes, nous pensons souvent que c'est tout ce que nous avons à faire. Elle ne faisait que commencer. Elle n'avait encore rien accompli. Elle venait juste d'entrer dans le pays. Bon, la chose suivante qu'il lui fallait faire, c'était de travailler. Elle est devenue une légaliste. Il lui fallait travailler à son propre salut avec crainte et tremblement, comme vous l'avez fait. Elle est allée dans le champ après avoir mis ses vêtements. Elle est allée dans le champ glaner derrière les servantes, afin de trouver quotidiennement de la nourriture fortifiante. Pas vrai? Que faisait-elle? Elle essayait de trouver grâce aux yeux de Boaz. Alors, elle a fait son chemin à travers l'étape du légalisme. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. C'est par la foi que les luthériens l'ont cru et sont entrés dans le pays. Mais les méthodistes enseignaient la sanctification, ce qui en était l'aspect légaliste. Voyez, il vous faut faire quelque chose. Il faut que j'arrête. Je dois laisser pousser mes cheveux, disaient les femmes. Bien sûr, elles ne le font plus, mais elles le faisaient. Elles laissaient pousser leurs cheveux. Il leur fallait arrêter de se maquiller le visage. Elles ne portaient pas leur jupe d'une mauvaise manière, ou courte, comme les autres le faisaient. Il leur fallait faire quelque chose. Voyez, c'est ce qu'elle a fait. Elle a passé par l'étape de la justification, puis l'étape de la sanctification. Maintenant, quand elle a finalement trouvé grâce aux yeux de Boaz, que s'est-il passé? Alors, Naomi lui a dit, « Attends ici !» Pendant que Boaz accomplit l'œuvre du parent rédempteur, car il est le seul qui puisse le faire, il est notre plus proche parent rédempteur. Toi, attends ici, tout simplement. Ne va plus dans les champs, ne fais pas ceci, cela ou autre chose. Attends simplement jusqu'à ce que l'œuvre du parent rédempteur soit achevée. Et elle s'est reposée. Amen. C'est exactement là que l'Église est rendue dans cette dernière étape, la Pentecôte. Vous voyez, au début de la Pentecôte, ils ont tous fait des œuvres. Il leur fallait faire ceci. Se secouer les uns les autres et tout le reste. Maintenant, que fait l'Église? La véritable Église se repose. C'est tout. Qu'est-ce que le repos? Le voici. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le jour du sabbat. Les adventistes du septième jour veulent nous faire croire, vous savez, qu'il s'agit du sabbat du septième jour, ou quelque chose comme ça. Dans Hébreux, chapitre 4, il est dit, « Nous qui sommes entrés dans son repos, nous nous reposons de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc, le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Et quand Ruth s'est reposée, c'était un type de l'Église qui se repose dans les promesses de Dieu. Nous avons maintenant le gage de notre salut. Nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir si nous serons là-bas ou pas. Nous y serons. C'est vrai, Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, et nous avons le gage. Amen. Nous avons déjà été admis. Christ nous a acceptés. Rien ne pourra nous en éloigner maintenant. Nous y sommes. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre jusqu'à ce que l'heure, il est en train d'accomplir l'œuvre du parent rédempteur. Nous en avons le gage maintenant même et nous attendons le moment où il reviendra. Alors donc, ce qui est arrivé à Ruth par la suite, Ruth a reçu la récompense. C'est ce que l'Église a fait avec Luther. Elle est entrée dans la justification. Avec Wesley, elle est entrée dans la sanctification. En ces derniers jours, elle est entrée dans le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous nous reposons avec le gage de notre héritage. Nous savons que quelque chose s'est passé en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous attendons, nous soupirons avec la nature. Attendons ce moment où nous recevrons une vie immortelle, une plénitude immortelle. Nos corps seront rachetés. Tout a été racheté. Et nous attendons simplement qu'il revienne de la porte. Amen. Alors quoi ? Ruth a reçu la récompense. C'est à ce moment-là que nous recevrons notre récompense. C'est ce que ce livre scellé de sept sceaux nous dévoilera. Que sont ces choses ? Ce sont des mystères. Ils ne sont pas écrits dans la parole. Ils doivent être révélés par le Saint-Esprit. Mais si vous remarquez, en fait, ils sont révélés d'un bout à l'autre des Écritures. Mais ils ont été cachés aux gens. Quand nous parlerons des rouleaux plus tard, vous verrez comment ils étaient assemblés. Puis vous saurez exactement comment ces choses s'ouvrent. Alors oui, se reposer. Ce que Ruth, sous la justification, le voyez-vous, dites Amen. Ruth qui travaille sous la sanctification, une légaliste. Ruth qui se repose. Attendons que Boaz revienne, une fois l'œuvre achevée. Notre Boaz à nous a achevé l'œuvre au calvaire. Mais avant qu'il revienne, pour nous emmener dans sa demeure, il y va d'abord, dans Jean 14, pour nous y préparer une place. Gloire ! Que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais j'irai vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre. Vous voyez, Boaz va là-bas. Que fait-il ? Il va là-bas, se tient. Il a convié les anciens à la porte, a ôté son soulier et a dit « Que l'on sache aujourd'hui que j'ai racheté Naomi et tout son héritage. » Ce faisant, il a obtenu la Moabite. Et quand Jésus est venu, qui est-il venu racheter ? Israël. Qu'est-ce qu'il a obtenu en rachetant Israël ? Il a obtenu l'épouse des nations. Certainement, il a obtenu quand il a racheté Israël. Il est allé et il est allé vers les siens. Il fallait qu'il le fasse. Quelle est la première chose qu'il lui fallait faire ? Racheter les siens. Et pour cette femme, l'Église israélite, l'Église des nations n'est qu'une sœur. Certainement, alors il a dû racheter Israël pour obtenir celle-ci, tout comme il a dû racheter Naomi pour obtenir Ruth, son épouse. Alors, qu'a-t-il fait avant qu'il ne puisse la prendre ? Oh, gloire ! Qu'a-t-il fait ? Il est allé à la ferme. Je suppose qu'il a tout repeint et qu'il a mis de nouveaux tapis sur le sol. Oh, il a peut-être construit une nouvelle maison. Dans notre cas, c'est une nouvelle maison. Et il a tout préparé. Puis il est revenu avec sa boutonnière bien en place pour le mariage. Amen. Que faisait Ruth ? Rien du tout. Elle se reposait. Elle attendait. Plus de labeur, plus d'agitation. Faudrait-il que je sois méthodiste ? Faudrait-il que je fasse partie des baptistes ? Faudrait-il que je sois presbytérien ? Non, monsieur. Recevez simplement le Saint-Esprit et reposez-vous. Nous attendons la venue du millénium, jour béni, gloire, où notre Seigneur viendra chercher son épouse qui l'attend. Oh, la terre crie, soupire après ce jour de délivrance. Toute chose, la nature soupire, les feuilles de figuier, tout attend ce jour de délivrance béni. Quand le parent rédempteur reviendra prendre son épouse. Maintenant, elle se repose. Sous la sanctification ? Non. Sous la justification ? Non. mais à la fois sous la justification et la sanctification, tout en étant dans leur repos. Bon, dans Ésaïe chapitre 28, verset 18, il y est dit, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux différents langages que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, voici le sabbat, voici le moment où l'Église entre et attend. Regardez comment nous sommes passés par la justification, la sanctification, et que maintenant nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit. Nous nous reposons, nous attendons. Qu'en est-il? Bon, eh bien, quand nous arriverons à ces révélations-là, vous verrez ce qu'il en est. Voyez comment ces choses ne pouvaient pas être enseignées avant ce jour-ci. Elles ne l'étaient pas. Elles ne pouvaient pas être enseignées. Elles n'étaient pas dévoilées au Fils des hommes. La Bible dit, je peux vous montrer ici, dans les Écritures, qu'il est dit que ça ne sera pas dévoilé avant que les fils des hommes, avant ce jour-ci. Ainsi donc, nous voulons terminer en traitant de ces grandes choses bénies. Maintenant, très bien, le verset 6, ou une partie du verset 5. Dans le verset 5, l'ancien avait raison lorsqu'il a dit, « Voici un agneau ». Mais quand il a regardé autour de lui, il a vu un lion. C'était un lion au lieu d'un agneau. Mais alors, qu'est-ce qu'il en était? Son œuvre de médiation était terminée. De médiation. Il avait cessé d'être le médiateur à la fin de l'âge de l'Église pour devenir le lion de la tribu de Juda. Son œuvre de médiation était terminée. Il fallait qu'il devienne un lion, c'est-à-dire le juge. Et là, il a pris, lorsqu'il a pris le livre de la main. Maintenant, souvenez-vous, quand un homme allait faire le rachat, ne l'oubliez pas là, quand un homme allait faire le rachat, il allait chercher des hommes, les anciens, et ils allaient aux portes de la ville. Et là, il déclarait l'objet de sa présence. C'est ce qu'il faisait. Il allait à la porte et disait, « Je suis ici pour déclarer que je suis un parent rédempteur et pour revendiquer cet héritage. Alors, je suis venu me faire connaître aux anciens de la ville. » Voyez? Et quand Jean a pleuré, bon, quelqu'un, comme je l'ai dit la semaine dernière, a dit, Jean a pleuré parce qu'il ne trouvait personne qui soit digne. Ce n'était pas ça. Un homme sous l'influence du Saint-Esprit ne pleurerait pas pour ça. C'est ce que cet homme pensait, qu'il n'était pas digne. Peut-être que Jean lui-même n'était pas digne. Personne n'est digne. Mais ce n'est pas ce qui l'a fait pleurer. Je crois qu'il pleurait de joie, parce qu'il avait vu tout le plan de la rédemption écrit ici, dans ce livre. Ce n'était pas parce que personne n'était digne, puisque juste là se trouvait un agneau qui était digne. Alors qu'il pleurait, il a dit, « Oh, gloire à Dieu !» Écoutez-le quand il se met à pousser des cris. Bon, mais ici, nous le voyons en train de pleurer, car il était si heureux que l'agneau ait pris le livre pour l'heure de la main de celui qui était assis sur le trône. Et dès qu'il a fait, quand cet ange puissant s'est écrié, « Qui est digne ?» Il lançait un appel. À ce moment-là, il lançait un appel afin de trouver un parent rédempteur. Et tout de suite après, il a dit, « Qui est digne de prendre le livre ?» Alors Jean s'est mis à pleurer. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé. Le livre se trouvait là. Il était là, mais qui était digne? Eh bien, Gabriel était là, bien sûr. Il était digne. Mais vous voyez, il n'était pas un homme. Il était un ange. Michel était là. Il était digne. Mais il n'était pas un homme. Il était un ange. Il fallait donc que ce soit quelqu'un qui était devenu un être terrestre, comme nous. Et quand il a vu s'avancer cet agneau qui avait été immolé dès la fondation du monde, et qu'il a vu qu'il avait été immolé là, à la fondation du monde, alors Jean a pleuré. Amen. Voilà, c'était ça. Il avait vu toute la scène, voyez? Et aussitôt qu'il a lancé son appel, « Qui est digne ?» Il annonçait la venue du parent rédempteur. Et voilà qu'il était là. C'était un agneau. Et qu'a-t-il fait? Il s'est avancé jusqu'au trône où se trouvait l'Esprit de Dieu et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et tous les anciens se sont prosternés et ont dit, « Tu es digne parce que tu as été immolé. » Voyez? Et là, il est donc devenu son livre, ou du moins le livre de la rédemption, ou le livre d'intercession dont l'âge de l'Église était terminé. Alors il est devenu le rédempteur. Maintenant, la révélation de la manière dont il s'y est pris, c'est dans ces sept sceaux. Bon, nous remarquons dans comme quand le livre de son œuvre de médiation était achevé, l'œuvre était terminée. Là, les trois premiers chapitres de l'Église s'étaient terminés. Mais maintenant, la rédemption sera révélée. Qu'est-ce que c'est, alors, quand il a pris ce livre? Maintenant, réfléchissez profondément, parce que, si jamais on ne l'a pas saisi pendant ces 7 soirées, vous allez saisir cela maintenant. Si vous ne saisissez pas cela, levez simplement la main pour dire, je ne saisis pas. Voyez, écoutez, parce que je veux que vous vous en assuriez bien, là. Maintenant, remarquez, la rédemption. Après, tout juste après avoir terminé son intercession en faveur de l'Église, il se révèle à ce moment-là en tant que parent rédempteur. Vous me suivez bien, là? Et maintenant, il va révéler à l'Église comment il s'y est pris. Ainsi donc, si cette révélation est déjà en cours, cela prouve donc que nous sommes au bout du chemin. Amen. Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas, alors que nous parcourons l'Écriture ici. Nous découvrirons qu'est-ce qui était révélé, la révélation de la rédemption. Qu'est-ce que c'est? Comment avons-nous été rachetés? Regardez un peu ce qui s'est passé ici au cours des dernières années. La révélation du nom de Jésus quant au baptême d'eau. La révélation de ce qu'un enfer éternel n'existe pas. Ces choses, on ne les connaissait pas avant. Vous pensiez que vos bien-aimés y seraient pour l'éternité, voyez? Or, il vous est impossible d'avoir la vie éternelle si vous n'êtes pas sauvé. Et si vous avez la vie éternelle, vous ne pouvez pas brûler en enfer pour l'éternité. Vous serez puni pour les péchés que vous avez commis pendant votre vie naturelle. Mais vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle en enfer. Si vous avez la vie éternelle, alors vous ne pouvez pas brûler pour toujours. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et je suis sûr que l'Église comprend cela. Maintenant, qu'est-ce? Quelles sont les autres choses? Le plan de la rédemption. Regardez ce qui nous a été donné récemment par le Saint-Esprit. Vous voyez, la postérité d'Abraham, ce que la révélation signifie. La semence du serpent. Vous voyez ce livre de l'Apocalypse? Regardez bien quand nous y arriverons. Vous verrez la manière dont cela s'ouvre. Et ici même, j'ai prouvé par l'Écriture que c'est l'exacte vérité. Je suis retourné au tout début, dans l'époque, ou au tout début, dans la Genèse, pour relever cela et montrer que quand ce sceau a été ouvert, cela s'est retrouvé d'un bout à l'autre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Pensez-y, de la Genèse à l'Apocalypse. Jamais personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Je me suis tenu devant plus de 300 prédicateurs de l'association pastorale du Grand Chicago l'autre jour. Et j'ai prouvé cela au point où ils se sont tous mis à pleurer dans les bras l'un de l'autre. 70 d'entre eux viendront se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et la semence du serpent remonte à la Genèse. Si le serpent n'avait pas de semence, alors Christ ne serait pas né. Parce qu'il a dit, « Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. » Et si la semence du serpent était un mythe, Christ aussi était un mythe. Et l'Église aussi est un mythe. Voyez, c'est tout. Vous ne pouvez pas dissocier cela. Le serpent avait une semence. Et c'est ça qu'ils trouvent vraiment renversant. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre cela? Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Pourquoi ne viennent-ils pas en discuter avec moi? La chair est toujours verte. Je suis prêt à rencontrer n'importe qui. Je ne me disputerai pas avec eux, mais j'en discuterai certainement avec eux, s'ils le veulent. Je le leur ai dit là même devant l'association. Je veux que quelqu'un parmi vous me dise où c'est faux. Ne parlez pas de moi, de cela, dans mon dos. Venez ici me le dire en face. Soyons francs. Approchez-vous ici et voyons qui a raison et qui a tort là-dessus. Mais ils ne s'y attaqueront pas. Franchement, ils savent ce qu'il en est. Voyez, en effet, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu même que vous voyez. Qu'en est-il de ces jours-ci où toutes ces choses se produisent et que cet ange du Seigneur se tient tout près? Je ne pourrais pas connaître ces choses, mais c'est maintenant l'heure. Quand nous verrons aujourd'hui, c'est cet esprit, les 7 cornes et tout, si le Seigneur le veut. Vous verrez de quoi il s'agit. C'est à cette heure où nous vivons que ces révélations sont censées venir. C'est le livre des révélations, de la révélation de Jésus-Christ. Et nous avons vu au tout premier chapitre qu'il a révélé qui il était. Et maintenant, il arrive au 7 sceaux et révèle comment il a racheté la terre. Et l'une des manières, c'était par le nom de Jésus-Christ. L'autre, c'était de délivrer les gens de la peur, notamment par ce qui est éternel, la rédemption éternelle, la justification par la foi, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et quoi encore ? Que nous avons la sécurité éternelle. Là, cela enlève tout doute des gens. Si vous avez le gage de votre salut, Dieu vous a déjà scellé pour le jour de votre rédemption. Éphésiens 4, 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Maintenant, comment pouvez-vous rétrograder ? Vous pouvez peut-être rétrograder, mais vous ne pouvez pas être perdu. Et si vous demeurez dans cet état, ça montre que vous ne l'aviez pas au départ. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, celui qui rend ce culte, étant une fois purifié, n'a plus conscience de son péché, dit Hébreux. C'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et aller vivre dans le monde. Si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Donc, tout ce que vous écoutez quelque part, ce n'est qu'un faux son. Le diable vous a rendu imbu de vous-même. Mais si vous examinez votre vie par la parole de Dieu et que vous y voyez que vous vivez selon les pages de la Bible, alors vous avez la sécurité éternelle. Et il n'y a rien à craindre. Ce que Dieu a promis, Dieu le fera. Je mets au défi toute personne d'accepter cela. Acceptez simplement cela et marchez avec cette parole. Et regardez ce qui vous arrivera. Frère, cela fera s'accomplir toute chose. Dieu l'a dit. Tout ce que Dieu a promis arrivera. Alors je vous ai dit que mon travail commençait. Ça fait presque 15 ans que je vais partout dans le monde. Et cela n'a jamais failli. Pas une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'en suis tenu à la promesse de Dieu. Je savais que c'était la vérité. Ne m'amenez pas à essayer de vous dire que c'est par ma grande sagesse. Mais celui qui révèle les secrets du cœur, c'est celui-là même qui me l'a montré dans l'Écriture. En effet, je n'avais même pas, quand j'ai commencé à prêcher, il y a environ 30 ans, il me fallait demander à ma petite amie de s'asseoir là et de lire la Bible. Je ne pouvais même pas la lire. J'avais très peu d'instructions. Sir Wilson, vous devez vous souvenir de ça. L'époque où Hope lisait la Bible pour moi. Elle s'asseyait là et la lisait. Puis je disais, « Avez-vous entendu ce que la Bible dit ? Faites exactement ce qu'elle dit. C'est tout ce que je peux vous dire. » Et tous ceux qui l'ont fait, eh bien, ils ont réussi. C'est tout. Elle disait, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Je disais, « Combien croient cela ? Lis la suite, chérie. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Je disais, « Combien croient cela ? Vous avez entendu ce que la Bible dit. Je ne pouvais pas lire cela moi-même. » Alors, vous voyez, je n'avais aucun moyen d'apprendre d'aucune école. Mais, oh, j'aime cette école où je suis allé. Oh, quelque part là-bas, au fond d'une petite caverne, les mains levées vers Dieu, comme ça, jour après jour, quand le Saint-Esprit descend dans sa douceur et se met à se révéler et à dire, ceci, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Et jamais personne, ni aucune créature d'aucune sorte, n'a jamais été capable d'en démentir quoi que ce soit. Et malgré tout le fanatisme et toutes les autres choses qui se sont répandues à travers le pays, Dieu a gardé cela pur et irréprochable. Il a fait en sorte que cela soit répandu tout autour du monde. Alléluia ! Nous sommes au temps de la fin, frère. Nous sommes ici au temps de la fin. C'est tout. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est exactement ce qu'il a dit. Maintenant, c'est le livre de l'Apocalypse. Dieu se révèle. Et maintenant, dans ses grands mystères, il révèle le nom du Seigneur Jésus-Christ quant au baptême. Il révèle que l'enfer éternel, ça n'existe pas. Cela ne se peut pas. Aucune écriture dans la Bible ne dit qu'une telle chose existe. Or, il existe un enfer et il existe un étang de feu. C'est là que les méchants sont punis, mais ils seront finalement consumés. Peut-être que ce sera au bout de 1 000 000 000 d'années, mais ils seront finalement consumés. En effet, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle à moins d'être sauvé. Et si vous brûlez éternellement, c'est que vous avez la vie éternelle. Eh bien, le bon sens, vous le ferez voir. Voyez ? Comment pouvez-vous avoir l'éther ? Combien savent que lorsqu'on a la vie éternelle, on est sauvé ? Eh bien, si vous brûlez pour l'éternité, ne faudrait-il pas que vous ayez la vie éternelle pour voir cela ? Donc, vous voyez, ça n'a même pas de sens. Voyez ? Maintenant, la sécurité. Ceux qui l'ont connue d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu, avant la fondation du monde, nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Jean nous dit ici, dans l'Apocalypse, que l'ennemi dans les derniers jours, cet ennemi religieux, s'introduirait parmi les gens et formerait des organisations et tout, des sectes et tout, comme on en voit aujourd'hui. Et qu'il séduirait même les élus si c'était possible, et séduirait tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation même du monde. Quand votre nom a-t-il été écrit dans le livre de vie de l'agneau? Avant la fondation du monde. Quand Christ a-t-il été immolé? L'a-t-il été il y a 1900 ans? Non, monsieur, avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Vous voyez ce qu'il en est? Ce sont ces sceaux qui s'ouvrent, qui commencent à révéler le plan de la rédemption. Comment il s'y est pris? Tout est terminé maintenant. C'est presque sûr, presque sur le point de se terminer. Ainsi, nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi les choses sont révélées. Très bien. Donc, notre parent reçoit le livre de la rédemption scellé de sept sceaux de la main du propriétaire originel. Le propriétaire originel, quand nous l'avons perdu dans le jardin d'Éden par Adam, il est retourné au propriétaire originel. Mais on a eu un braconnier dans le pays, un squatteur, et c'est Satan. Il est venu là, c'est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu. Mais lui, il est un braconnier, un squatteur. Oh, je pourrais dire quelque chose là, mais je ferais mieux de ne pas le dire. C'est le titre de propriété de notre rédemption. Ce livre, scellé de sept sceaux, c'est le titre de propriété. Attendez seulement qu'on arrive à ces sceaux. Il brise les sceaux, les révèle. Il nous donne son héritage, à nous, son peuple. Il donne l'héritage qu'il a acquis en tant que parent rédempteur. Et c'est gratuitement qu'il nous le donne. Tout cela lui appartenait, c'est lui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le redonne aux gens. Voilà son amour pour nous. Oh, Satan, qui en est le possesseur maintenant, ce squatteur, il est finalement, il ne veut pas lâcher prise tout de suite. Nous le voyons un peu plus loin, ici dans les Écritures. Je pense que ça se trouve ici, dans un autre chapitre. Et il n'a pas voulu lâcher prise tout de suite, mais il lui a fallu livrer bataille pour cela. Mais finalement, quand il était amené à une confrontation, il était jeté dans l'étang de feu. C'est vrai. Jésus, le nom Jésus dans les évangiles, a quatre titres de fils. Le saviez-vous? Jésus a quatre titres de fils dans l'évangile. L'un d'eux, c'est le fils de David. L'un d'eux, c'est le fils d'Abraham. Un autre, c'est le fils de l'homme. Et un autre, le fils de Dieu. Maintenant, regardez. Quand notre parent rédempteur est devenu Jésus-Christ, il est devenu le fils de David, c'est-à-dire un héritier du trône. Gloire ! Il a hérité du trône du fait qu'il est un fils de David. Dieu a dit là-bas, dans le passé, qu'il fera en sorte que David ne manquera jamais. David ne manquera jamais de postérité. Et Christ est le fils de David. Il est devenu notre parent rédempteur. Et il attend, alors qu'il prépare un endroit où il pourra régner avec nous. En tant que fils de David, il est héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. Amen. Pas vrai? Il est héritier de la concession royale. Amen. La Palestine et tout ce qui s'y trouve. La postérité d'Abraham. Il était fils d'Abraham. En tant que fils de l'homme, qu'est-ce que le fils de l'homme? Qu'est-ce que l'homme a perdu? Il a perdu la terre. Alors, en tant que fils de l'homme, il est l'héritier de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout ceci lui appartient et il doit nous le redonner. Alors, il retourne à ce qu'il était. Il est... Ainsi donc, en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes choses. En tant que fils de David, il est héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. En tant que fils de l'homme, il est héritier de la terre. En tant que fils de Dieu, il est héritier de toutes choses, dans le ciel et sur terre. Oh là là, voilà notre rédempteur, notre parent rédempteur. Maintenant, remarquez. Oh, ça me fait tellement de bien. C'est là que je me nourris vraiment. Maintenant, ouvrez votre cœur à Dieu pendant quelques instants. Écoutez ceci. Satan est un squatteur. Il n'en est pas le propriétaire légitime. Et il a passé 2000 ans à protester pour déterminer si l'on est le propriétaire ou si quelqu'un d'autre en est le propriétaire. Mais Christ est venu comme parent rédempteur et a racheté toutes ces choses pour nous les ramener. Mais Satan les possède. Par contre, vous savez, au bout d'un moment, une fois ce grand combat terminé, il sera jeté dans l'étang de feu. Voyez, il sera anéanti, de même que tous ceux qui adorent avec lui. Mais les héritiers du salut viendront avec Christ. En effet, c'est un squatteur. Bon, souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, si un homme perdait son héritage et qu'un squatteur venait occuper son terrain, au-delà de la 50e année, ce squatteur ne pouvait plus garder ce bien en vue d'annuler le droit du propriétaire légitime. Après 50 ans, c'était l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, quand c'était l'année du jubilé, alors tout retournait comme c'était au début. Tous les esclaves, ils retournaient à ce qu'ils étaient au début. Si un homme était en train de bêcher dans le champ et que la trompette sonnait et qu'il l'entendait, il pouvait jeter la binette par terre et dire « Je ne suis plus un esclave, je rentre chez moi, retrouver ma famille ». Tout était restitué. Si un squatteur occupait le terrain, il était obligé de quitter ce terrain. C'est tout. Il quittait ce terrain, pourquoi ? Le propriétaire légitime revenait. Il était obligé de céder. Alléluia ! Un de ces jours, les royaumes de ce monde seront anéantis et les propriétaires légitimes reviendront un de ces jours. Amen. Bon, il y a eu une période où cela fait l'objet de contestations. Depuis le 40e jour, depuis le début du premier jour de la purification du sanctuaire ou de la montée de Christ au calvaire jusqu'à l'ascension, il s'est écoulé 40 jours. Cela a fait l'objet de débats. On se demandait si le groupe de Satan se servirait de cela pour affirmer qu'il n'était pas ressuscité des morts. Ils se sont mis à faire des proclamations à ce moment-là, selon lesquelles ils disaient « Ce sont les disciples qui sont venus de nuit le dérober ». Vous avez lu la Bible. Il a dit que ses adeptes sont venus de nuit le dérober. Les soldats ont été payés pour parler de cette manière. Mais c'était l'objet de contestations à l'époque. Tout le monde se posait des questions à ce sujet. Eh bien, peut-être que ça appartient vraiment à l'organisation. Alors, tout cela est à elle. Mais le 50e jour, c'était le jour de la Pentecôte. Et le propriétaire légitime est descendu parmi eux. Alléluia ! Il a montré que cela n'avait rien à voir avec l'organisation. Il était question d'être rempli du Saint-Esprit. C'était le gage, l'acompte que Dieu avait donné à son Église, de sorte qu'elle ne soit pas dirigée par des organisations et tout. C'était le gage du baptême du Saint-Esprit, avec la puissance et l'amour de Dieu. Amen. Oh, ça ne vous fait pas quelque chose, ça? Le possesseur légal, ça se trouvait où? Entre les mains de Dieu et sur l'heure. Vous voyez, il ne pouvait pas le retenir au-delà du 50e jour. Vous pouvez lire ça dans le Lévitique parmi les lois qui s'y trouvent. Il est dit qu'on ne pouvait pas le propriétaire originel. Cela devait retourner aux mains du propriétaire originel après 50 ans. Nous le savons tous. Vous l'avez lu bien des fois, mais voyez, ça devait retourner au propriétaire originel après 50 ans. Eh bien, alors après ces 50 jours, années, un an, un jour représentait un an. À partir du jour de la crucifixion, lorsqu'ils ont pris ce parent rédempteur et l'ont tué, le jour de la Pâque, à ce moment-là, il y a eu contestation. Jusqu'à ce moment-là, l'Église croyait qu'il était le parent rédempteur. Il était le rédempteur. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tué. C'est l'ennemi qui l'a fait. Et on a dit qu'ils sont venus prendre son corps pour le cacher quelque part. Et les gens se posaient des questions à ce sujet. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, à la fin du 50e jour, vous voyez, plus aucune contestation n'était possible. Alors Dieu, au lieu que les gens continuent avec la vieille Église orthodoxe, guindée et froide, Dieu a envoyé le Saint-Esprit à chasser tous les squatteurs et a pris le contrôle. La puissance du Saint-Esprit est descendue et l'Église a reçu le gage de son salut. Maintenant, frère, je ne dis pas ceci pour vous blesser ou quoi que ce soit d'autre, mais si l'organisation a raison et que vous n'êtes qu'un catholique au sens de l'organisation, vous êtes baptiste au sens de l'organisation, vous êtes perdu. Vous voyez, adhérer à une église, ce n'est pas ça le gage de notre salut. Faire partie d'une quelconque organisation, ce n'est pas ça le gage de notre salut. Le gage de notre salut, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'est pas du tout question d'organisation. Amen. On ne pouvait pas le garder pour au-delà du 50e jour, car c'était le jour du jubilé, ce jour où tout retournait à son état originel. Et là, la puissance de Dieu revenait à ce qu'elle était, à son état originel. Ce 50e jour, l'année du jubilé, quand toutes choses revenaient à ce qu'elles étaient au début. Maintenant, une autre année du jubilé devait venir. Et nous l'avons eu en ces temps-ci. Si vous remarquez, ça fait 50 ans que la Pentecôte est descendue en Amérique. Quelque chose comme ça. Il y a environ 50 ans, la Pentecôte a commencé à descendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Église est en train de recevoir le livre scellé de sept sceaux de la révélation de Jésus-Christ. Des sept sceaux. Et il ne se trouve même pas un dixième des gens qui puissent l'accepter. Mais quand on commence à voir l'année du jubilé, une année où on n'a pas à se disputer, à créer des tensions, à se tirailler comme ça, mais où on est déjà en sécurité en Christ. Nous avons déjà le nom du Seigneur Jésus-Christ quant au baptême. Nous avons tous ces grands mystères que nous allons traiter dans ces sept sceaux. Et vous prouvez que c'était ça, les sceaux qui étaient scellés, cachés aux yeux des gens. Avec l'aide de Dieu, je vais vous prouver qu'ils ne pouvaient pas voir cela par la Bible. Bien sûr, si la Bible dit, alors vous le croirez. Avant ce jour-ci, ils ne pouvaient rien voir d'autre que Père, Fils et Saint-Esprit. Avant ce jour-ci, ils ne pouvaient pas voir que l'enfer éternel, ça n'existe pas. Ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait une sécurité éternelle, pour le vrai croyant. Bien sûr, il y a eu des imitations partout. Et ces gens ont produit un son confus. C'est pourquoi les gens, ils disent, « Eh bien, regardez les presbytériens et tout. Ils fument, boivent et tout, et disent qu'ils ont la sécurité éternelle. » Oui, mais vous voyez, c'est pour dévaloriser la véritable trompette. Regardons ici dans le livre et voyons si la trompette sonne, si vous ne retrouvez pas cela de la Genèse à l'Apocalypse, d'un bout à l'autre, une fois que ce sceau est ouvert. Voyez, quand ces choses sont révélées. Maintenant, oh frère, je pensais que j'allais juste. Je vais devoir laisser tomber ceci jusqu'à la prochaine fois où je serai ici. J'ai encore environ 6 pages ici. Très bien. Non, nous avons un service de baptême juste après. Je vais lire ceci, certaines petites choses que j'ai ici sur l'année du jubilé. Très bien. Maintenant, vous prenez tous en note les Écritures dans Jérémie 32, à partir du verset 6. Si vous, quand vous serez rentré chez vous, vous pouvez le lire. Maintenant, Jérémie, pour vous montrer ce qu'est un rouleau, je vais utiliser ceci. Prenons le rouleau de toute façon. Cela me prendra environ 10 minutes de plus pour traiter de ce rouleau. Eh bien, souvenez-vous, ce livre était scellé. Bon, à l'époque de la Bible, un livre n'était pas quelque chose qui avait quatre coins comme celui-ci. C'était quelque chose comme ceci. C'est ça qu'on appelait un livre, un rouleau. Combien savent ça? Oui, bien sûr, c'était un rouleau. Très bien. Bon, ce livre était scellé de sept sceaux. Or, c'était la Bible, et elle était scellée de sept sceaux. Eh bien, regardez comment c'était fait. Jérémie, quand il allait être, il avait prophétisé qu'il serait emmené ailleurs. Là, dans Jérémie, chapitre 32, il allait être emmené en captivité à Babylone. Ils allaient être là-bas pendant 70 ans. Il l'avait prophétisé. Vous, les lecteurs de la Bible, vous l'avez lu bien des fois. Il allait être emmené là-bas et y rester pendant 70 ans. Il était en fait le plus proche parent de son cousin qui était décédé. Son cousin, H-A-N-A-M-2-E-L, Anamel, Anamel, Anamel. Il était son plus proche parent. Alors, il savait que l'ennemi s'emparerait des papiers de sa propriété et tout. Mais quand il savait que Dieu n'abandonnerait jamais son peuple, et en prévision de leur retour, voici ce qu'il a fait afin de rentrer en possession de son héritage et en être le propriétaire légitime. Il a tout consigné par écrit. Combien l'ont déjà lu? Très bien. Vous l'avez lu alors. Très bien. Alors, il a pris cela et l'a scellé exactement de la même façon que ces rouleaux étaient scellés ici. C'est la chose la plus belle et la plus remarquable que vous ayez jamais vue. Maintenant, je vais essayer de l'illustrer avec ce morceau de papier. Je ne sais pas si j'en suis capable ou non. Bon, voici comment c'était écrit, comme ceci. Donc, il l'a roulé et l'a scellé comme ceci au bas de chaque feuille. Maintenant, ce qu'il en était, c'est que sur chacun de ces sceaux était inscrit ici son héritage et ce qui s'était passé, tous ceux qui étaient morts avant lui et comment il en était devenu héritier. Tout était scellé comme ça. Eh bien, c'est ainsi que Dieu a scellé son livre de sept sceaux. Maintenant, au fur et à mesure qu'il brise ceci, cette révélation-là se retrouve au tout début et court tout au long jusqu'au dos du livre. C'est pour ça qu'on peut prendre le nom de Jésus-Christ et le retracer de la Genèse à l'Apocalypse et montrer que Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'existe pas. Vous voyez, ça se trouve d'un bout à l'autre de la Bible. Elle en donne la révélation. Prenez, par exemple, l'existence d'un enfer éternel. Si vous prenez ça et que vous le recherchez d'un bout à l'autre, un enfer éternel, ça n'a jamais existé. Parce qu'au commencement, Dieu a dit que l'enfer avait été créé pour le diable et ses anges, pour leur châtiment à venir. Alors, si l'enfer est éternel, comment a-t-il pu être créé? Le mot « création » n'a jamais, le mot « éternel », ce qui n'a jamais eu de commencement et qui ne pourra jamais avoir de fin. En effet, si cet enfer est éternel, alors l'enfer a toujours existé. L'enfer était là en même temps. En même temps qu'un Dieu existait, l'enfer aussi existait. Avant qu'il y ait le moindre péché, l'enfer existait déjà. Ah, oh là là, vous voyez, ça ne tient pas debout. Vous voyez donc comment ces choses s'ouvrent d'elles-mêmes. Cela revient au commencement et dévoile le livre. Alors là, en fait, cela permet de voir l'image de la Bible tout entière et les sceaux qui cachaient la Bible aux yeux des sages et des intelligents. Dieu, par le Saint-Esprit, les ouvre comme ceci et les révèle d'un bout à l'autre de la Bible. Gloire à Dieu. Frère, je vous le dis, ça stimule mon système digestif spirituel. Voyez, maintenant, regardez. Vous voyez, c'est comme, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, le voici, un sceau. Alors, si vous observez en lisant ici, allez dans Jérémie et vous verrez comment il l'a scellé. Maintenant, voici le livre, c'est écrit là-dedans. Donc, c'est juste au moment prévu pour la première révélation qu'il ouvre ce sceau. Là, regardez bien, et vous verrez ce qu'était ce premier sceau, quand nous en arriverons au sceau. Puis, au moment du deuxième sceau, il brise le sceau suivant. Et savez-vous où nous en sommes? Nous en sommes presque au septième sceau, en ce moment même. Et quand le septième, quand le premier sceau a été ouvert, la première trompette a sonné et le premier fléau a été déversé. Quand le sixième sceau s'est ouvert, la sixième trompette a sonné et le sixième fléau a été déversé. Regardez cela, c'est on ne peut plus magnifique à voir. Et quand j'y viendrai, je vais me procurer un grand tableau noir que je vais mettre ici et je vais enseigner tout ça en long et en large. Donc, nous prendrons tout notre temps sur chacun des sceaux. Nous retournerons dans l'histoire et tout pour démontrer quand exactement c'est arrivé et montrer ici même dans la Bible pour quand elle avait annoncé cela et le moment précis où c'est arrivé, la date et tout le reste. J'ai tout ça, amen, reçu tout ça de lui. C'est vrai, ce sont les sceaux. Maintenant, quand Jérémie a écrit ce livre, cela a été scellé. Voici une bonne chose que je veux vous faire remarquer. À vous tous qui l'avez lu, que ce livre scellé, maintenant souvenez-vous. Il allait se retrouver loin. Il avait prophétisé. Eh bien, il ne le savait pas lui-même. C'est par la prophétie qu'il l'a su. Me suivez-vous? C'est par la prophétie qu'il a su, par la révélation de Dieu, qu'il serait loin de son pays pendant 70 ans. Vous vous souvenez qu'il avait prophétisé cela? Qu'il y serait pendant 70 ans, qu'ils iraient en captivité. Par conséquent, il voulait s'assurer que ce sceau, que son héritage, serait préservé, parce qu'il avait il avait hérité de ce que son cousin avait laissé en héritage. Donc, il a fait consigner tout cela par écrit, conformément à la loi. Et qu'a-t-il fait de cela par la suite? Pour éviter que cela pourrisse ou que cela rouille, il a mis cela dans un vase de terre, qu'il a mis en lieu sûr pour éviter que cela pourrisse ou que cela rouille, avant la fin de ses 70 années. Gloire à Dieu! J'espérais que vous saisiriez cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il n'a jamais révélé cela aux sages et aux intelligents, pour qu'ils n'aient pas à se quereller à ce sujet pendant tout ce temps. Mais il a mis cela dans un vase de terre. Il a lui-même créé son propre Fils, Jésus-Christ. Et maintenant, en ce dernier jour, il ouvre les sceaux et les fait voir à son Église. C'est conservé dans un vase de terre afin d'éviter que cela pourrisse ou que cela rouille. Alléluia! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un, voyez-vous. Mais voilà, c'est ça. Cela a été enveloppé et conservé dans le vase de terre qui était racheté de la terre et qui est ressuscité le matin de Pâques, puisque les sceaux de la mort ne pouvaient plus le retenir. Alors il a brisé ses sceaux et est ressuscité. Et en ces derniers jours, il démontre qu'il est vivant. Il est dans son Église. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela a été caché au séminaire. Cela a été caché aux organisations. En ces derniers jours, il révèle cela par sa propre présence parmi son peuple. Il va chercher quelqu'un duquel il peut faire sortir le monde et faire sortir les choses, les manières des gens d'Église, de sorte qu'il puisse parler par cette personne afin de révéler et d'ouvrir lui-même ses sceaux comme ceci. Voyez, alléluia! Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Oh là 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 là! Notre plan du salut s'est aussi maintenant révélé en Jésus-Christ. Comment apporte-t-il la révélation en ces derniers jours? Par l'ouverture qu'il fait des sceaux. Eh bien, personne, de toute votre vie, vous n'avez jamais entendu dire qu'il existe des écrits au sujet de la postérité d'Abraham, qu'elle est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, au sujet de cet ange qui viendrait dans les derniers jours, et que le dos tourné à l'assemblée, il dirait exactement ce que Sarah pensait en elle-même dans son cœur. Jusqu'à ce jour, on n'en avait jamais entendu parler. C'est vrai, c'est maintenant le jour, et la foi d'Abraham, le nom du Seigneur Jésus. Bon, une chose là, j'ai ici cinq choses dont j'aimerais parler en vitesse, le plus rapidement possible. Regardez, les sept, il y a sept sceaux, et dans le plan de la rédemption de Dieu, on a cinq, sept. Cinq, c'est le nombre de la grâce. Combien savent cela? J-E-S-U-S, F-O-I, en anglais, F-A-I-T-H. Cinq, c'est le nombre de la grâce. Six, c'est le jour de l'homme. Et sept, c'est son jour de rédemption. Maintenant, regardez. Eh bien, il y a sept sceaux dans ce, ou sept étapes dans ce grand plan de la rédemption. Il y a sept quoi? Sept sceaux de la rédemption. Sept esprits de Dieu. Nous voyons que, si vous voulez voir s'il est bien fait mention de cet esprit, laissez-moi voir ici un petit instant, au chapitre 5, à partir du verset 6, je crois. Là, nous voyons le verset 6. Et voici, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept têtes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ces sept esprits, qu'est-ce que c'est? Les sept messagers. On a Saint Colomba, Irénée, et John Wesley, Martin Luther, et ainsi de suite. Vous voyez, les sept esprits qui sont sept hommes, sept anges, qui sont sept messages, sept sceaux, sept esprits, sept anges, sept cornes et sept églises. Vous voyez, sept, sept, il y a cinq, sept, et sept, c'est la perfection, cinq, c'est la grâce. La grâce de Dieu à l'égard de ces sept âges de l'Église, ces sept hommes messagers, ces sept esprits de Dieu, les sept sceaux de la rédemption qui ont été prévus, c'est ce que nous voyons en ce moment. Les sept cornes signifient sept âges. En effet, une corne signifie un royaume. Vous vous souvenez de la couronne qui était sur la bête, la corne, dont Daniel et tout. Vous voyez, cela signifie un royaume ou sept âges. Et souvenez-vous, Jésus a dit, certaines se sont endormies à la première veille, c'était un âge. D'autres à la veille suivante, c'était l'âge suivant. Puis la suivante, et la suivante, et ainsi de suite. Jusqu'à la septième veille. Et à la septième veille, l'époux est venu. C'est alors qu'elles se sont toutes réveillées. Vous vous souvenez de ça? Donc, ce sont sept âges, qui étaient les sept cornes, et cette église, ou les sept dispensations du corps des croyants. Oh, ça ne pourrait pas être plus parfait. Jérémie, Oh, le livre, les âges, la manière dont cela a été racheté, la manière ici même. Le septième et dernier de ces sceaux, lorsqu'ils sont ouverts, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 10. Là, il y a un ange puissant, c'est-à-dire Christ, qui est descendu et a posé un pied sur la terre et un autre sur la mer. Puis il a levé sa main et a dit, « Le jour est terminé, le temps est écoulé, tout est terminé, il n'y aura plus de temps. » Et il a dit, « Au son de la, à ce moment-là, le mystère de Dieu s'accomplirait. Qui est Dieu et comment il s'est manifesté ?» Quand ce sceau a été ouvert, là nous commençons à comprendre maintenant qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu lui-même fait chair. Et la révélation de qui il est, ces choses devraient s'accomplir avant que cet ange puisse mettre ses pieds sur la terre et sur la mer et jurer qu'il n'y aurait plus de temps lorsque ce moment viendra. Nous sommes juste au bord de ces choses en ce moment. Voyez, le dernier de ces sceaux, c'est Apocalypse 10, un pied sur la terre et un autre sur la mer. Le temps était écoulé, la rédemption est terminée et là, il vient en tant que lion. Avant cela, il était un agneau et maintenant, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Maintenant, je vais lire le reste de ceci afin que je puisse vous l'apporter en vitesse. Là, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et le vin et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums et des prières des saints. Eh bien, c'est le moment où tout doit être en adoration. Alors souvenez-vous, comme c'est à propos. Maintenant, ne manquons pas de voir ceci, là. Écoutez bien, une fois que tous les mystères de l'âge de l'Église sont accomplis, une fois que tous les mystères des plans de la rédemption, les sept sceaux, sont ouverts, hein, alors, tout de suite après cela, regardez, c'est le moment pour toute chose, tout dans le ciel et tout sur la terre, d'adorer Dieu. Maintenant, observez ce qui arrive. Écoutez, c'est... Écoutez ceci juste un instant. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne ». Écoutez donc ça. Quelle adoration! Les anciens, les êtres vivants, tous se sont prosternés là devant lui. Voyez, comme ça. Quand il a accompli son plan tout entier, là, c'est le moment de l'adoration. Voyez, et ils ont chanté un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Écoutez ces âmes rachetées qui crient là-bas. Je regardais et j'entendis une voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Tout ce qui se trouve dans le ciel adore cet agneau. Voyez, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne, alléluia, alléluia, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Écoutez, et toutes les créatures, écoutez ce que Jean a fait, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, Jean, les entendit qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soient les louanges, honneur, gloire et force au siècle des siècles. » Jean a vraiment dû avoir une Pentecôte à lui tout seul. Il a dit, « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont sur la terre, toutes les créatures qui sont sous la terre, toutes les créatures qui sont dans la mer, m'ont entendu dire, « Amen, gloire, honneur, puissance et louange soit à celui qui est assis sur le trône, cet agneau-là, le moment de l'adoration. Amen. » Comment l'ont-ils fait? Voici sa parole. Vous, ils ont tous entendu cela. Et les quatre êtres vivants disaient, « Amen. » Tu as raison, Jean, crie et loue-le de toutes tes forces. Cela m'entend dire qui disait, « Louange. » Amen, gloire, sagesse, puissance et force. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui est assis, qui vit au siècle des siècles. Quelle belle histoire! Bon, je n'ai pas le temps. Mais j'ai noté ici un peu de contexte à ce sujet. Mais la prochaine fois, avant de traiter de ceci, peut-être quand je reviendrai de vacances, ou une autre fois, je veux prendre les 70 semaines de Daniel et relier cela avec ceci, et montrer où cela mène au jubilé de la Pentecôte, et ramener tout cela pour les relier aux 7 flets, à ces 7 sceaux qui sont censés s'ouvrir ici, juste avant notre départ, et montrer que c'est à la fin, c'est l'agneau, le Messie, le prince devrait venir, et cela devrait durer 70 semaines, c'est-à-dire 7 ans, qui avaient été prophétisés à son peuple. Et le prince serait retranché au milieu d'elle, ce qui fait 3 ans et demi. La moitié de 7, c'est 3 et demi. Il serait retranché, et le sacrifice perpétuel cessera. L'abomination qui cause la désolation, c'est-à-dire la mosquée musulmane d'Omar, qui a été érigée à l'endroit où se trouvait le temple, le jour où ils l'ont brûlé. Et après cela, il reste encore 3 ans et demi à Israël. Christ est venu à prêcher et à prophétiser exactement 3 ans et demi, et le sacrifice perpétuel a cessé. Tout est parfait au possible. Et la mosquée musulmane d'Omar était exactement construite au même endroit, et elle s'y trouve encore aujourd'hui. Et ils fouleront aux pieds les murs de Jérusalem jusqu'à la fin de la dispensation des gens des nations, quand l'Église, l'élu, l'épouse, est enlevée de là. Et les deux prophètes, Élie et Moïse, se tournent vers Israël pour ces autres 2 ans et demi, 3 ans et demi. C'est vraiment magnifique quand on fait ressortir cela. Vous l'aimez de tout votre cœur? Vous comprenez maintenant ce qu'était le livre scellé de 7 sceaux? Ce qu'il en est, là, nous l'avons sous la forme d'un rouleau. Et souvenez-vous bien, c'est seulement en ces derniers jours, cela a été conservé dans un vase de terre. Est-ce que vous comprenez cela maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Aucun homme ne l'avait. Personne ne l'avait. C'était uniquement en lui. Ce n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne puissiez même pas voir cela. C'est vrai. C'est donc en lui que cela est révélé, dans ce vase de terre, de sorte que cela ne pourrisse pas et ne rouille pas. Ainsi donc, il vient et en retire un pour le montrer à son Église et dit, « Vous voyez, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Voyez, voyez. Eh bien, vous vous êtes toujours demandé si le pauvre pécheur brûlerait éternellement ou s'il serait tout simplement anéanti au bout d'un million d'années. Vous y êtes. Voilà ce qu'il en était. L'enfer éternel, ça n'existe pas. Ça ne pourrait pas être éternel parce que l'enfer n'était pas avec moi quand j'ai commencé tout là-bas. Je l'ai créé pour y punir les méchants. Voyez? De quoi avez-vous si peur? Voyez, au sujet de la postérité d'Abraham et de toutes ces différentes choses, ce sont seulement les grandes lignes, voyez. Mais quand on verra comment Dieu ouvre ses sceaux et les dévoile au fur et à mesure, voyez-vous, quand vous le verrez, alors vous ne pourrez plus vous éloigner de ce livre. Ces sceaux, vous dites, « Oh, le sceau signifiait autre chose, frère Branham. » Attendez un instant, ça doit concorder avec ceci, parce que c'était scellé au dos de ceci, pour révéler ceci. C'est, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Tenez, c'est comme ici, dans Jérémie. Vous dites que telle et telle chose s'est passée. Vous retirez ceci. Voilà où c'est écrit. Très bien. Vous brisez cela, et vous regardez ici, à l'intérieur. Voici où on peut lire ce qui s'est passé. Très bien. Vous brisez ceci, vous regardez ici, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est pareil avec ce livre, voyez-vous, au dos de ceci. Ils disent, eh bien, je n'arrive pas à comprendre. Certains disent Père, Fils, et d'autres Saint-Esprit, et d'autres disent le nom de Jésus, et tout le reste. Cela a été caché pendant toutes ces années, mais maintenant, voilà ça. Quand on le déroule, ça retourne au début pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a toujours eu qu'un seul Dieu. C'est vrai. Et son nom, c'est comme le livre de Matthieu 28:19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. Alors, comment les baptiserez-vous? Dans lequel de ces noms baptiserez-vous? Alors qu'aucun d'eux n'est un nom. Alors quoi? Vous ne baptiserez donc en aucun nom. C'est de nouveau cette école des prophètes, voyez? Puis, vous revenez à cet endroit-ci, vous prenez ici, vous cherchez ici, et vous retournez dans Matthieu 1. Qu'a-t-il fait là? Il a repris cela et l'a pris à partir d'ici. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Pas trois dieux, là, voyez. Sa mère était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Pas Dieu le Père, le Saint-Esprit. Hein? Tout cela arriva afin que... Et Joseph, son époux, un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il pensait, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Dieu le Père, du Saint-Esprit. » Je pensais que Dieu le Père était son Père. Je dis ça à cause du service de baptême qui aura lieu sous peu. Voyez, je pensais que Dieu le Père était son Père. Eh bien, soit le Saint-Esprit et Dieu le Père sont la même personne, soit il avait deux pères. Et là, il serait un enfant bâtard. Alors quel genre de Dieu avons-nous? Hein? Vous voyez? Et cela arriva tout afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Une vierge concevra et portera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Est-ce vrai, ça? Et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, vous voyez, quand il a retiré le sceau, qu'est-ce que toute la chose contient dans Matthieu, chapitre 1, quand on reprend cela? Eh bien, Jésus-Christ. C'est exactement ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. C'est ce que tous les autres ont dit. Bien sûr, il a fallu que cette bande de Romains vienne dire, « Oh non, nous devons avoir trois dieux. Nous avons... » Ils en ont 10 000 maintenant. Il y a des Marie, des Saintes Cécile, des Saints Marc et des Saints Untel. Et je pense qu'il y en a plus de 500 à Mexico. Une femme était tuée il y a quelque temps par un de ses amants. Une bagarre avait éclaté à cause d'elle. Et elle a été tuée. Alors, on a fait d'elle une sainte. Et les gens vont se repentir en son nom et tout. C'est du spiritisme. Et voilà l'Église protestante qui arrive à son tour avec ce qu'ils appellent le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, protecteur du ciel et de la terre. Et à la... et à la Sainte Église catholique romaine. Et je crois à l'intercession des saints, à la communion des saints. Des protestants qui disent, sous serment devant Dieu, qu'ils croient à la communion des saints. C'est du spiritisme, voyez. Puis, ils vont de l'avant et le font, certainement, parce que l'Église l'a dit. « Oh Dieu, comme je suis heureux de savoir ce que je sais, comme je suis heureux de savoir ce que je sais. » Ils ne se rendent pas compte que, de ce fait, ils se sont définitivement séparés de Dieu et ils se retrouveront dans les ténèbres du dehors. Et vous ne pouvez pas le leur dire, parce qu'ils ne peuvent absolument pas voir cela. Je veux demander, personne n'est obligé de se prononcer là. Il y a au moins 15 ou 20 personnes assises ici qui étaient coupables de penser que j'étais Jésus-Christ. Comment ont-elles pu faire cela? Je les observais attentivement jusqu'à ce que je découvre que Dieu me dise que c'était un esprit. Et ces hommes, j'ai dit, et ces hommes me croyaient, chacune de mes paroles. J'ai dit, comment me croyez-vous donc, puisque c'est moi qui vous le dis? Alors, nous sommes allés dans la parole, et ils ont commencé à voir. Ils ont dit, eh bien, nous ne vous croyons certainement pas, sinon nous aurions écouté ce que vous disiez. Vous voyez, là? Mais ils pensaient vraiment avoir raison, sincèrement, voyez? Et si l'un de ces esprits vient sur vous, ça y est, voyez-vous, vous croirez cela, absolument. Peu m'importe si vous... Personne ne peut vous dire autre chose, voyez? Peu importe ce que dit la parole, eh bien, vous ne croyez pas cela, de toute façon. Vous allez de l'avant. Si vous voulez être comme ça, allez-y. Moi, j'ai ma propre manière. Vous voyez? Ça montre que vous êtes loin du mauvais esprit. L'Esprit de Dieu va tout. Eh bien, vous dites, qu'en est-il de vous-même, frère Branham? Je demande à n'importe qui. Je suis toujours disposé à ce que quelqu'un me montre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais il faut que ce soit la parole. On ne peut pas juste dire, il faut que cela vienne de la parole. Donc, c'est là que ces sceaux s'ouvrent. Et ne vous inquiétez pas, si c'est un sceau, on le retrouvera de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, voilà les sceaux. Vous l'aimez, n'est-ce pas? courbons la tête. Combien ici ne le connaissent pas comme leur sauveur et dans leur cœur, ils aimeraient l'accepter. Vous savez, je crois au fait de s'avancer à l'autel. Je crois vraiment, c'est bien. Mais dans la Bible, jamais ils ne se sont avancés à l'autel pour recevoir le salut. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de croire cela dans leur cœur et de l'accepter. Combien d'entre vous veulent suivre la voie de la Bible? Tous ceux qui crurent furent baptisés. Combien d'entre vous croient aujourd'hui? Vous ne l'avez jamais fait auparavant, mais vous voulez confesser publiquement que vous aviez tort dans vos voies. Et vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur? Voudriez-vous lever la main alors que vous avez la tête inclinée pour dire « Je... » Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Et vous, que Dieu vous bénisse! Tout au fond, que Dieu vous bénisse! Et vous, que Dieu vous bénisse! Là-bas derrière, maintenant, je crois, que Dieu vous bénisse! Que Dieu bénisse cet homme là-bas, derrière. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas ici, mais c'est dans votre cœur, à Dieu que vous confessez publiquement. Seigneur, je sais que nous sommes au temps de la fin. Je suis à bout. L'autre jour, je parlais à un de mes amis ici en ville, le docteur Sam Adair. Nous étions assis dans le bureau. J'ai dit, « Sam, j'ai des bulles de gaz. » Il a dit, « Comment sais-tu que ce sont des bulles de gaz dans la région du cœur ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « C'est peut-être juste une thrombose dans le cœur. Le cœur, un problème cardiaque. » Il a dit, « Excusez-moi. » Il a dit, « Ce pourrait être un problème cardiaque. » Il a dit, « Bon, comment sais-tu que c'est à cet endroit-là » Il a dit, « Laisse-moi t'ausculter. » Il m'a examiné et a dit, « Non, il n'y a rien qui cloche chez toi. » J'ai dit, « Sam, quel que soit le moment où ça arrivera, j'ai 52 ans et Sam est un peu plus âgé que moi. J'ai dit, quand ça arrivera, Sam, toutes ces 30 années, je les ai passées à essayer d'amener les gens à croire en Jésus-Christ. Celui-là que j'aime et pour qui j'ai travaillé tout ce temps, ça ne change rien du tout pour moi quand il viendra. Je rentrerai à la maison. » Il a dit, « Billy, tu sais où je tire le plus de satisfaction? C'est quand je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. » J'ai dit, « Ça, c'est la vraie vie. Mon ami, si vous avez un héritage ici, dans ce monde, c'est un héritage corruptible. Mais nous recevons un héritage qui ne disparaîtra pas. Le fils prodigue est parti et a laissé son héritage. Il en avait emporté une partie. Lorsqu'il est revenu, son héritage était corrompu. Mais si vous vous êtes éloigné du vôtre, il n'en est pas ainsi du royaume de Dieu. Nous recevons un héritage incorruptible. » Ne voulez-vous pas recevoir cela? Une quinzaine de personnes ont levé la main. Ce sont des pécheurs qui veulent recevoir leur héritage ce matin. Y en aurait-il un autre avant que nous prions? Oui. Tout doucement, maintenant. Prenez votre décision maintenant. Si c'est le sentiment qui vous anime, c'est maintenant le moment. Père Céleste, dans le calme de ce moment, nous te présentons cet auditoire. Alors que je suis dans un état de faiblesse ce matin, Seigneur, et que j'essaye d'apporter ce message aux gens parce que je les aime, je veux qu'ils l'entendent, Seigneur. Je veux qu'ils soient ancrés. Je veux qu'ils sachent que toutes ces choses qui ont été faites ces dernières années ne sont pas le fruit du hasard. C'était toi, Seigneur. C'est toi qui dévoilais ces choses. Et, ô Dieu, nous avons le sentiment qu'il y a un grand jubilé qui nous attend. Je prie pour ceux qui ont levé la main. Ils savent qu'ils ont tort, Seigneur. Beaucoup de petites choses. De temps en temps, ils ont peut-être hérité d'un peu d'argent de quelqu'un. Mais à quoi cela a-t-il servi? Ils ne savent pas à quoi il a servi. Il n'en reste que très peu. parce que c'est un héritage corruptible. Et s'il le laisse à quelqu'un d'autre, il sera de nouveau corrompu. Mais nous avons un héritage incorruptible, c'est-à-dire le salut, la rédemption. Nous retournons au jardin d'Éden. Quand on y pense, Seigneur, qui ne voudrait pas redevenir comme Adam et Ève et vivre comme en ce temps-là, où notre nourriture nous est fournie au quotidien, un Père céleste toujours là à nous parler le long du sentier, et nous voyons cette grande lumière marcher devant nous. Le lion et le loup qui mangent ensemble, le bœuf qui mange de la paille, et le lion qui mange avec lui. Or maintenant, ils se mangent l'un l'autre. Le lion mange le bœuf et le loup mange le bœuf. Tout ce qu'il peut trouver à manger. Mais en ces jours-là, il n'en sera pas ainsi. Les beaux grands oiseaux voleront. Il n'y aura pas de chagrin. Il n'y aura plus jamais de signe pour indiquer que nous n'avons pas atteint nos espoirs. Le long du sentier, nous verrons nos enfants, nos bien-aimés. Oh Dieu, quel jour! Quel jour! Peu importe ce que nous recevons ici sur terre, cela aura complètement disparu. Mais ça ne disparaîtra pas. Oh Dieu, il se pourrait qu'ici, sur cette terre, je ne puisse plus jamais parler à ces gens qui ont levé la main. Je ne sais pas. J'espère que je le pourrai. Mais si ce n'est pas le cas, alors, Seigneur, accorde-moi de les rencontrer là-bas, sur le sentier. Peut-être diront-ils quelque chose comme ceci. Frère Branham, vous souvenez-vous, là-bas sur la terre, avant que cette glorieuse chose se produise, un matin, vous prêchiez sur l'ouverture des seaux qui avaient été conservés dans un vase de terre. C'est là qu'il est venu dans mon vase de terre. J'étais l'un de ceux qui avaient levé la main ce matin-là. Oh, je suis si heureux d'avoir été là. Je dirais, frère, sœur, je suis si heureux d'avoir été là, moi aussi. Maintenant, nous aurons de la communion fraternelle ensemble pendant tous les âges à venir. Bénis-les, Père, ils sont à toi. Tu as dit, nul ne peut venir à moi si le Père m'en a-t-il. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Aucun d'eux ne sera perdu. Nous en sommes reconnaissants, ô Père. Puissent-ils venir maintenant et recevoir le gage de leur salut, non pas aller adhérer à une église. Mais le gage, ce n'est pas l'adhésion à une église, c'est une nouvelle naissance, afin de recevoir le Saint-Esprit. Puissent-ils te recevoir, Père. Car nous les remettons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à ces mouchoirs, Seigneur Jésus, je prie sur ces mouchoirs. Je te prie de bénir tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont ici, Seigneur. Cette pauvre femme qui est assise ici dans ce fauteuil roulant. Après cette glorieuse réunion de ce matin, Père, nous avons senti ton Saint-Esprit nous saturer de part en part et senti la parole descendre profondément et s'enraciner dans le cœur des gens. Ils ne l'oublieront jamais, Seigneur. Chaque fois qu'ils entendront ces choses, ils penseront à l'ouverture de ces seaux. Maintenant, aide-nous à savoir ce qu'étaient ces seaux, Seigneur, afin que personne ne soit confus dans son esprit, mais que chacun sache, par l'ainsi dit le Seigneur, que c'est le sceau de Dieu, les sceaux que Dieu nous a dévoilés. Nous te prions de guérir tous les malades et les affligés. Accorde le Seigneur, ton esprit est présent. Si tu peux sauver un pécheur qui se trouve tout au fond du bâtiment, tu peux aussi guérir un malade qui s'y trouve. Je te prie de l'accorder, Seigneur, et de guérir ceux que ces mouchoirs représentent, puisqu'ils n'ont pas pu venir ici aujourd'hui. Nous te remettons tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois qu'il y a un petit bébé qu'on veut consacrer. Est-ce que cette femme est ici, avec le petit bébé? Pourrait-elle l'amener maintenant? Nous serons heureux de consacrer le petit enfant. Non, il n'a pas à être petit. Avancez simplement. Que quelques anciens viennent maintenant se tenir à mes côtés, s'ils le veulent bien. Quel âge a-t-il? 2 ans et demi. Comment s'appelle-t-il? Scott? Scott Ford. Le petit Scott Ford, qui a 4 ans et demi, veut être consacré ce matin à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa mère l'a amené. Avancez directement ici, frère. Bienveillant Seigneur, nous t'apportons ce petit bébé ce matin, afin de le consacrer. Nous imposerons les mains sur ce petit bébé, ce petit garçon, et nous demandons que la puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe vivifie ce petit garçon. Oh Dieu, puisse-t-il vivre en bonne santé, être vigoureux, puisse-t-il vivre pour ta gloire, Seigneur. comme tu as déjà commencé à aider ce bébé. Nous te remercions pour cela et je te prie de continuer d'être avec ce petit enfant. Sois avec ses parents, ses bien-aimés. Puisse, nous savons et on nous enseigne que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Oh, combien ces choses rapprochent parfois les gens de toi. Je te prie d'accorder les bénédictions que nous demandons. Et maintenant, Père, en obéissance à ta parole, nous te confions ce petit garçon au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu recevoir son petit esprit, son âme et son corps et l'utiliser pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, petit Scott. Combien nous remercions le Seigneur pour cela. Maintenant, qui sont ceux qui vont se faire baptiser? Il y a un groupe de gens qui se feront baptiser, je crois. Pendant qu'on se prépare pour cela, chantons. Je vais vous dire ce que nous pourrions faire. Chantons. Je vais laisser Frère Neville le faire. Je sais que ce sera alors très bien. Très bien, monsieur. Frère Neville, si vous aimez le Seigneur, dites Amen. Allez-vous prier pour moi? Amen. Amen.